Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com.
A long time ago, in a galaxy far, far away.
This station is now the ultimate power in the universe.
Well, how could they be jamming us?
A communications disruption can mean only one thing.
Star Wars on the record.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
Begun the Clone War.
Bienvenue à tous à Star Wars en direct, édition de février 2009. En ma compagnie, j'ai Henri de Camus Web. Bonjour Henri.
Bonjour.
J'ai Louis de Star Wars Universe. Bonjour Louis.
Salut à tous.
Et le dernier, mais non le moindre, Raphaël de chez MintInbox.net. Bonjour Raphaël.
Bonjour tout le monde.
Donc cette semaine, on va parler des dernières actualités du mois. Donc, qu'est-ce qui s'est déroulé depuis la dernière émission mi-février à maintenant? On va parler de différents sujets, incluant des revues de produits et romans. Vous pouvez nous rejoindre par email à l'adresse studio@swendirect.com. studio@swendirect.com. Vous pouvez aussi nous communiquer par Skype à l'usager swendirect. Envoyez-nous un message. Un message texte pour qu'on puisse vous introduire dans la conversation si vous le désirez. Si nous sommes hors d'onde, vous pouvez laisser un message sur notre boîte vocale par Skype aussi. Vous pouvez nous rejoindre sur le www.swendirect.com, rejoindre notre groupe Facebook pour la version française de Star Wars en direct et suivre tous nos faits et gestes sur Twitter. Donc, messieurs, chacun votre tour. Comment a été votre dernier mois côté Star Wars, des nouvelles acquisitions, etc.? On va commencer par Raphaël.
L'acquisition du mois, un mois relativement tranquille. Une fois de plus, sans doute le retour des fêtes est un peu difficile pour moi. Donc janvier, peu d'achats. Février, je commence à réfléchir à mes achats, mais surtout je me prépare pour les prochaines sorties d'événements dont je vous présenterai ça tout à l'heure.
Parfait. Toi, Louis?
De mon côté, pas grand-chose, parce que tout simplement, Delcourt n'a pas sorti énormément de BD, donc j'ai juste acquis le deuxième volume de The Clone Wars Adventures, Point d'Impact, dont je vous ferai la critique tout à l'heure, et aussi le premier volume de Trahison, du premier volume de l'Héritage de la Force, pour essayer de voir si je peux raccrocher avec les romans.
Et toi, Henri?
Moi, en fait, j'ai finalement plus acheté ce mois-ci que pour Noël, alors j'ai acheté... j'ai un peu d'argent, donc on en a profité. Donc, en fait, j'ai acheté quelques vieilles VHS pour compléter ma collection. J'ai trouvé la première édition de la novélisation de la Guerre des Étoiles de 77 chez Presse de la Cité. D'accord. J'ai trouvé je me suis acheté la BO de Willow, j'ai acheté la novélisation de Willow que j'ai trouvé pas trop cher, j'ai rattrapé mes dernières bandes dessinées en retard depuis un mois, donc j'ai acheté les derniers romans en anglais, donc Wild Space et Luke Skywalker dont on va parler plus tard, et j'ai aussi acheté deux anciens, L'Héritier de l'Empire en VO et Assaut sur Salonia aussi en VO.
Mon Dieu, voilà. Tu vas avoir plus de romans que moi bientôt, hein. Tu en as probablement déjà plus que moi.
J'essaie de tout avoir en anglais, donc.
Ah, c'est excellent. Moi, de mon côté, c'est pas Star Wars directement, c'est relié à Lucasfilm un peu. Je me suis acheté le coffret collection des bandes sonores de Indiana Jones. Donc, j'ai les 4 films plus un 5e CD avec des pistes inédites, donc j'ai bien aimé. Je vais le montrer à la caméra rapidement. Voilà, ça c'est le petit coffret. Ici on le voit. Et puis on voit toutes les 5 CD. J'aime beaucoup la musique de John Williams, donc c'est un petit plaisir que j'avais demandé pour Noël que je n'avais pas reçu, donc je me suis fait un petit cadeau.
Donc toi aussi tu t'es vengé.
Eh oui.
Le Père Noël ne pas amené ça, donc je vais aller l'acheter moi-même.
Je n'étais pas assez sage. Donc, avez-vous d'autres commentaires par hasard? On a reçu des emails en tant que tel, donc on va sauter par-dessus commentaires des auditeurs. Et puis on va commencer immédiatement avec les nouvelles d'Hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Comme premier bloc, on va écouter Jean-François, qui est absent aujourd'hui, mais qui nous a laissé une petite revue de ce qui s'est passé côté jeux vidéo. Je vous fais entendre ça immédiatement et on revient immédiatement après.
À tous, côté un nouvel jeu vidéo. La plus grosse nouvelle qu'il y a eu dans les dernières semaines, c'est la vidéo de prototype de Battlefront 3 qui a été mis sur le web. Battlefront 3 est un jeu qui était développé par la compagnie Free Radical. Le site IGN a eu une entrevue avec un des membres de la compagnie Free Radical qui malheureusement n'existe plus. La compagnie a été fait faillite dans les derniers mois. Donc, l'employé confirme que c'est bel et bien une vidéo de Battlefront 3 qui est sur le web. C'est le vrai jeu que la compagnie travaillait dessus. Là, ça faisait plus de 18 mois que la compagnie travaillait sur le jeu qui devait être disponible pour la Xbox 360 et la PS3. Le jeu, malheureusement, ne verra pas le jour, du moins pas par la compagnie Free Radical, puisque la compagnie a fermé ses portes. Mais l'employé confirme que le jeu était presque terminé, que LucasArts leur donnait tout le temps qu'il voulait, il n'y avait pas une date de sortie de décidée par LucasArts, car LucasArts se concentrait plus sur The Force Unleashed, puis le jeu Fracture. Donc c'est dommage, car la vidéo est très belle, le jeu a l'air très intéressant. Espérons que LucasArts va trouver... je sais qu'il y a un nouveau développeur qui travaille sur le jeu, c'est la compagnie Rebellion, qui travaille sur Battlefront 3 maintenant. Rebellion, c'est eux qui ont créé Battlefront Renegade Squadron pour la PSP. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais le membre de Free Radical indique que le footage, ce qu'ils ont fait, ce qu'eux autres ont travaillé pour Battlefront 3 ne sera pas utilisé dans la nouvelle version. Du moins, la technologie, oui, mais peut-être pas tout ce qu'ils ont créé. Donc, on ne sait pas si Rebellion devra refaire le jeu de A à Z. Alors, espérons avoir des nouvelles dans les prochains mois concernant Battlefront 3, car je crois que c'est un jeu qui est très attendu par plusieurs. Surtout la portion multijoueur. De plus, il y a une nouvelle vidéo Making of pour le jeu The Old Republic qui a fait surface sur le site officiel de The Old Republic. La vidéo s'intitule The Making of Titan. Cette vidéo, on voit des entrevues avec les développeurs, il y a aussi des dessins concepts. La planète Titan. La planète Titan, c'est la planète où les premiers usagers de la force se sont assemblés et que l'ordre Jedi a été établi. Donc, vous pouvez vous diriger sur le site officiel de The Old Republic pour pouvoir la vidéo. L'autre nouvelle concernant les jeux vidéo, ce n'est pas le jeu Star Wars, mais le jeu un nouveau jeu Indiana Jones. Au début de l'année, si vous regardez les sites internet de jeux vidéo, ils se demandaient c'est quoi les jeux qui attendaient pour 2009. Puis la plupart indiquaient le nouveau Indiana Jones qui a été montré au E3 de 2006, je crois, et il n'y a pas eu de nouvelles depuis ce temps-là. Le jeu avait été montré pour la Xbox 360 et la PS3. Eh bien, le site officiel du jeu est maintenant disponible sur LucasArts. Le jeu s'intitule Indiana Jones and the Staff of Kings, et je crois que la plus grosse surprise, c'est que le jeu ne soit pas disponible pour la Xbox 360 ni la PS3. Le jeu sera disponible au mois de mai, et c'est pour la plateforme Wii, Nintendo DS, PlayStation 2 et PSP. Si vous allez sur le site officiel de Indiana Jones and the Staff of King, vous pouvez voir la première bande-annonce, mais vous pouvez voir aussi quelques images du jeu. Alors, c'est tout concernant les nouvelles jeux vidéo pour ce mois-ci.
Monsieur Stinette,
on est de retour, et puis, Raphaël, tu t'es fait prendre.
Je soupçonne Henri de m'avoir fait un tour.
C'est dommage, il y avait des informations confidentielles, heureusement qu'elles sont pas filtrées, hein.
Donc, ce que, justement, mentionnait Jean-François, c'est que c'est dommage que le nouveau jeu d'Indiana Jones soit pas disponible pour les plateformes nouvelle génération. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais même pas si je vais l'acheter, le nouveau Indiana Jones, le Staff of Kings. Mais les images ont l'air ordinaires pour la Wii, donc j'ai aucune idée.
Bah, de toute façon, j'ai déjà un peu de mal à jouer avec les jeux issus des films et inversement, les films issus des jeux. Donc moi, je pense pas que je l'achèterai quoi qu'il arrive, parce que je pense pas que ce soit très bon, quoi, tout simplement.
Non, je voulais juste te dire que moi, j'ai qu'une PS3, mais de toute façon, je ne suis pas tellement jeu vidéo, jeu de rôle, donc je pense pas que de toute façon, s'il sortait sur une console next-gen, j'aurais pas acheté.
D'accord. Enfin, quand on regarde les graphiques de la bande-annonce, on croirait que c'est pour la nouvelle génération, mais quand on regarde les captures d'écran qui a été disponible sur Internet, c'est vraiment, on voit que c'est pour la Wii que la bande-annonce est faite avec des cutscenes pour montrer que c'est beau, mais en réalité, c'est pas si joli. Maintenant, on va passer à la chronique comics avec Louis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau ce mois-ci?
Alors, dans un premier temps, je vais enchaîner avec Jean-François parce qu'il y a une info qui est tombée de la ComicsCon qui n'a pas pu révéler, à savoir toute une série de webcomics qui vont sortir sur le jeu The Old Republic à partir du 24 février, je crois, raison de 3 pages par mois, qui devrait se passer donc avant le jeu, et c'est donc des webcomics qui vont introduire ce jeu avec les mêmes personnages. Donc on a une traduction de ce qui nous est donné sur les sites officiels. Pendant des générations, la guerre entre la République Galactique et l'Empire Sith a fait rage dans la galaxie. Le pillage de Coruscant et le traité de paix qui s'en est ensuivi ont changé la donne. Alors que la République se bat pour rétablir l'ordre, l'Empire Sith agit rapidement pour consolider sa domination sur son nouveau territoire. Mais derrière les portes closes, les seigneurs Sith s'engagent dans une silencieuse mais mortelle lutte pour le pouvoir, et un conflit surgit au sein même des Jedi quant aux implications morales de ce nouvel équilibre galactique au cours de cette période chaotique. Les histoires de plusieurs personnages importants s'entremêlent alors qu'ils poursuivent leur passion, se battent pour leurs convictions et en définitive mènent la galaxie vers un conflit catastrophique. Donc le titre c'est Threat of Peace, donc j'ai un accent un peu pourri, donc c'est le mot THREAT. Et on a une planche qui nous est donnée comme preview en noir et blanc où on peut voir une Jedi Togruta. Donc voilà.
Mais est-ce que c'est prévu pour être une série continue, même quand le jeu va être sorti, ou c'est tout simplement...
Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment introductif.
Ok.
Je pense que c'est introductif et donc je pense que ça va être des webcomics gratuits. C'est possible qu'il soit aussi dans l'Insiders, dans Star Wars Insiders. Enfin, non, c'est pas Insiders, c'est Hyperespace.
D'accord.
Excusez-moi. Donc là, par contre, ce ne serait plus gratuit, mais pour les membres. Mais bon, toujours est-il que, comme je l'ai déjà dit, l'Ancienne République est une période surexploitée. Alors, il nous parle encore d'un empire Sith qui est l'empire des True Sith. C'est vrai site, quoi, qui a été cherché par Revan. Enfin, c'est un truc, à mon avis, ça va être un peu tortueux, à mon avis on va s'en mêler les pinceaux. Bref, enfin moi je m'en attends rien particulièrement. Quoi.
C'est encore un exercice commercial dans le fond pour attirer les gens vers le nouveau jeu massivement multijoueur.
Largement. D'accord. Sauf que de toute façon, je pense que un jeu massivement multijoueur marchera moins bien que les RPG classiques qu'ils nous ont donnés avec les KOTOR.
Mm-hmm. Mais sont supposés avoir des storylines dans ce nouveau jeu. Donc peut-être qu'il va y avoir un lien entre la BD et la ligne directrice des aventures que tu vas faire dans le nouveau jeu. Peut-être.
Mais je pense, oui. Je pense parce que si c'est introductif, normalement, ça doit être directement lié. Et puis je pense aussi que ça va reprendre les personnages principaux du jeu.
D'accord.
Ou en tout cas pour les introduire. Donc à voir. Soit sur le site du jeu, soit sur StarWars.com, je sais plus exactement. Mais bon, à partir du 24 février. Donc apparemment, ce sera dessiné par Alex Sanchez. Personnellement, pour moi, inconnu au bataillon concernant les dessinateurs ayant travaillé sur la franchise Star Wars. Mm-hmm. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Donc, avant de revenir aux comics côté États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de news, je vais parler très brièvement des dernières news françaises, parce que là, par contre, il n'y en a pas vraiment.
Okay.
Donc, ce qui est sorti en février... C'est uniquement Star Wars The Clone Wars Adventures, Point d'Impact, deuxième volume. Donc avant de faire la critique, je vous rappelle que pour fin février, enfin pour le 18 février, il va sortir le quatrième tome de la légende des Jedi, Les Seigneurs des Sith, dessiné par Art Wetherell et colorisé par Pamela Rambo, et scénarisé par Tom Veitch et Kevin G. Anderson. On attend également le 18e magazine de la saga en BD pour le 27 février.
D'accord.
Qui devrait réunir une histoire entre Yann Solo et Chewbacca. Une autre histoire qui s'appelle Shadow Stalker. Donc apparemment le tout premier disciple de Dark Vador. Je pense que ça va être un peu bateau hein, parce que les disciples de Dark Vador, il y en a toujours. Et enfin, une nouvelle histoire dessinée par Alan Moore, à mon avis, qui devrait être pas mal. Et pour mars 2009, il est prévu le cinquième tome de X-Wing Rogue Squadron. Donc, Star Wars The Clone Wars Adventure est le seul bouquin qui est sorti depuis la dernière émission. Mm-hmm. Donc, qui est inspiré, dont les dessins... sont inspirés de la série The Clone Wars. Je vous rappelle que c'est le même format que les Clone Wars épisodes et qui est destiné aussi pour le même public. Donc le scénario est d'Henry Gilroy, les dessins de Sean et Matt Philbach et les couleurs de Rhonda Pattison. Bon, personnellement, c'est toujours pareil, les dessins sont toujours très très moches.
Est-ce que ça ressemble à qu'est-ce qu'on voit en ligne sur StarWars.com, ce qui précède les épisodes de Clone Wars?
Je pense que globalement, la qualité est à peu près similaire, sauf que ce qu'on a dans les webcomics, ils sont gratuits, tandis que là, c'est mm-hmm. payant. Ce qui me gêne énormément, c'est que ces petits bouquins, comme de toute façon, The Clone Wars en général, on ne sait pas où les placer chronologiquement. Mm-hmm. Sauf que c'est pire que tout, parce que on ne sait pas les placer dans la série. Alors, ça qu'on ne sait pas où placer la série, bah là, on ne sait pas où placer les bouquins, quoi. Uh-huh. Et donc,
c'est
par exemple,
ça
commence... Pardon ?
C'est pour ça que c'est gratuit. Épisode ? Oui.
Et donc, on commence avec une bataille sur Quell. Alors, Quell, c'est quand même la bataille de début de l'épisode Jedi Crash.
Okay.
Hein, où on voit la grosse bataille atmosphérique et puis là on voit une bataille terrestre dans des marées avec des speeders des marées. On retrouve Anakin et Obi-Wan. Alors on se demande qu'est-ce qu'ils foutent là. On aurait pu se dire que c'était une introduction un peu à Jedi Crash, mm-hmm. mais pas du tout parce que après Anakin et Ahsoka s'en vont sur Mon Gaza pour démasquer un complot et trouver des espions qui fournissent des informations à la République. D'une façon générale, le scénario est très intéressant. Il est bien plus intéressant que le premier volume. Et surtout, parce qu'il n'y a pas vraiment d'incohérence. Parce que le premier volume, je vous rappelle quand même qu'ils se font mettre sous la kryptonite pour se faire transporter, quoi. Alors que Yann Solo était censé être le premier à se faire...
La carbonite, sous, plutôt.
Sur carbonite, pardon, kryptonite. Bon, on est mal barré, là, si on se mélange avec les Marvel. Enfin, les Marvel, mais les comics américains, Superman, tout ça. Donc, se met sous carbonite. Donc du coup, ils arrivent à Mount Gaza, et ce qui est très intéressant dans ce volume, c'est qu'ils se retrouvent à faire une course de modules, le dédale de Mount Gaza, afin de retrouver les espions de Doku, qui doivent transmettre toutes les données stratégiques des prochaines batailles de la République. Donc lire ce bouquin m'a amené à la réflexion suivante, pourquoi les courses de modules n'ont pas été plus exploitées dans les comics? Mais avec des meilleurs dessinateurs. Parce que je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de vraiment sympathique. Même avec ces dessins qui sont spéciaux, revoir des courses de modules, ça nous remet bien dans l'ambiance épisode 1. Et non, c'était vraiment sympa, agréable à lire. Pour une fois, pas d'incohérence, donc ça se passait bien. Ça se lit facilement. Vous le trouverez en librairie pour 7,50€. Pour moi, c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais bon, globalement pas mal, mais faut pas en attendre des miracles. Voilà.
D'accord.
Donc, au niveau des Amériques, pour février, donc je vais vous donner les prochains numéros à paraître avec leur synopsis. Donc, le The Clone Wars Volume 4, Slaves of the Republic, partie 4 sur 6. Anakin Skywalker travaille sous couverture comme marchand d'esclaves, et Ahsoka est son esclave. De peur de voir la totalité de la population de la planète Kyros réduite en esclavage, ils se rendent jusque dans le système de Zygeria afin d'assister à la première vente aux enchères d'esclaves depuis des années. Anakin doit jouer de ses charmes auprès de la reine de Zygeria, tandis que l'esclave Ahsoka et les marchands d'esclaves Obi-Wan et Rex sont à la recherche de preuves. Pourront-ils mettre à jour ces horribles manigances? Donc ce sera comme pour les Adventures, à mon avis, je me demande où est-ce qu'ils vont les caser. Donc on verra bien avec Leland Ditchie. Donc les auteurs Henry Gilroy, Scott Burns, Dan Persson et Michael Wigram. Après, il est prévu KOTOR numéro 38, Fateful Execution, dessiné par Dean Zachary, colorisé par Mike Attaway et l'auteur John Jackson Miller. L'enquête menée par Zen Karik et ses coéquipiers Jarael Slick et le Mandalorien Rolan sur un navire de croisière tourne mal. Quelque chose d'horrible s'est produit à bord du chancelier Florian, l'ancien navire de luxe qui est maintenant à la dérive au milieu d'une nébuleuse. À bord de ce vaisseau fantôme, notre équipe ne trouve que des passagers asphyxiés et seulement deux survivants, un petit alien et son garde du corps droïde. Zen et ses amis doivent alors résoudre ce mystère et trouver la cause de ces terribles décès, avant d'en être eux-mêmes les victimes. On poursuit avec le Legacy numéro 33, Fight Another Day, prévu pour le 25.
Est-ce que c'est le dernier, ça?
Oui, c'est la partie 2. 2 sur 2. Donc, c'est de John Ostrander et de Jeanne Dursema, dessiné par Omar Francia, colorisé par Brad Anderson. Ayant pour objectif l'extermination de l'espèce Mon Calamari, les Sith ont créé une arme biologique, une créature pouvant tuer de manière sélective. Ce Léviathan Sith a d'ores et déjà été lâché sur un camp de réfugiés Mon Calamariens et nage à présent dans les eaux de Dak, on l'a dit, donc la planète Mon Calamari, quoi, à la recherche de nouvelles victimes. Les Rangers Mon Calamariens, avec l'aide du chancelier Jedi Trea Syndé, doivent trouver un moyen de le détruire avant que ce dernier ne raye jamais les Mon Calamariens de la galaxie. Donc, apparemment, histoire intéressante, mettant en œuvre le Léviathan. Léviathan dont on a pu voir les origines Sith à travers le crossover Vector. Et Léviathan qu'on a pu aussi apercevoir et apprécier dans le volume 2 Nouvelle République. Non, c'est le... Dans le volume 1, Nouvelle République, Jedi Academy, okay. Chez Delcourt.
Ouais, j'ai finalement vu de quoi il avait l'air. J'ai regardé un peu des archives, donc, et puis j'ai vu la couverture, ben pas la couverture, mais un encart, justement, on voit l'espèce de grand dragon, lézard, ou je sais pas trop, là.
Ouais, c'est vraiment immense. Mais à l'origine, ce Léviathan était vraiment pas du tout aimé des fans. Alors, je sais pas d'où est-ce qu'ils ont été le ressortir. Mais maintenant, c'est vrai qu'on l'a vu partout. On l'a vu dans Vector. Là, on va le revoir dans Legacy. Parce que je me souviens très bien des critiques qu'il y avait sur Jedi Academy. Tout le monde disait, ouais, bon, c'est sympa. Voilà, quoi, mettre un Godzilla dans Star Wars. Bon, c'est vrai que c'était une critique assez... Donc, on continue avec Legacy, The Hidden Temple, prévu pour le 25 de ce mois-ci. Les auteurs John Ostrander, Jeanne Gersema, Dan Persson et Brad Anderson. Synopsis, Kat Skywalker veut juste rester seule. Mais quand vous et vos amis avez fait exploser la moitié du temple Sith, tué deux sbires de l'empereur Dark Krayt, et que vous êtes le dernier héritier de la dynastie des Skywalker, cela semble difficile. Le génocide de l'Empire sur Mon Calamari est la cerise sur le gâteau. Cad et sa bande de chasseurs de primes réalisent enfin qu'il faut agir. Si seulement quelqu'un aidait Cad à sauver la galaxie et la débarrassant des Sith, peut-être un groupe de Jedi. Donc voilà pour les sorties du mois de février. Maintenant, je vais vous parler des sollicitations Dark Horse pour le mois de mai, donc ces synopsis fraîchement arrivés. Donc tout d'abord, le Star Wars The Clone Wars 14, ouais, parce qu'il y a vraiment que du The Clone Wars. La période The Clone Wars est entièrement saturée, mais on continue à en sortir quand même.
Il continue vraiment.
Of the Republic, la dernière partie. Oui, tu disais, Denis?
Non, je fais juste qu'il dit, il continue à en rajouter pour mêler encore plus la chronologie.
Ah ouais, non, mais si ça continue, la guerre des clones n'a pas duré 4 ans, mais 10 ans, quoi. Donc pourquoi pas, mais bon, ça commence à faire gros, quoi. Donc, scénario toujours d'Henry Gilroy, dessin de Scott Hepburn et ancrage de Dan Persson. Colorisation de Michael Wigham. Donc, le synopsis. Dans cette passionnante conclusion de Star Wars The Clone Wars, Slave of the Republic, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Ahsoka Tano luttent pour se libérer eux-mêmes, ainsi que la population esclave de Kyros, d'une vie de servitude. Et ce n'est pas seulement contre les esclavagistes Sigerian qu'ils doivent livrer bataille. Le Comte Dooku est arrivé avec Asajj Ventress dans l'espoir de sauver le nouveau commerce d'esclaves qui a été alimenté par les efforts séparatistes. Après, on a le KOTOR numéro 41, Dueling Ambition, la dernière partie, partie 3 de 3. Scénario de John Jackson Miller, dessin de Brian Ching, colorisation de Michael Ettiway. Donc, le synopsis, c'est le début du championnat Open Dueling. Zen lutte pour protéger son inepte partenaire dans les duels tout en essayant de convaincre le jeune fils du guerrier que lui et ses amis ont un plan pour les sauver et mettre fin au système de ferme d'esclaves. Pendant ce temps, Griff et Jarael suivent le plan d'action de l'équipe, faisant de leur mieux pour éviter les agents de sécurité du championnat. Dans la conclusion de Dueling Ambition, Zen doit faire face à la réalité de ses rêves et de son avenir, tandis que Jarael découvre des aspects de son passé mystérieux. Donc, on poursuit avec le Legacy numéro 36. Quand je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de news, c'est qu'il y en a beaucoup. Donc, toujours au scénario John Ostrander, dessin de Omar Francia, colorisation de Brad Anderson. Synopsis, la flotte de l'Alliance Galactique affiliée à Garth Stasi joint ses forces à celle celle de l'impérial de Roanfell, dans une attaque contre l'Empire Sith. Stasi a déjà une tâche bien précise à accomplir. Il doit non seulement maintenir soudée la fragile coalition, mais aussi s'assurer que les forces alliées ne s'abaissent pas aux tactiques ennemies. Un combat flotte contre flotte dans la plus pure tradition Star Wars. Donc à mon avis, là, c'est vraiment du lourd. On va enfin avoir une bataille de 5D en comics avec tous les vaisseaux qui vont bien. Mm-hmm. Donc on continue, il en reste plus que 3. Courage. Star Wars Dark Times numéro 14, Blue Harvest, la partie 2 sur 5. Le chaos des temps obscurs consécutifs à la mise en place de l'Empire floue les limites. Dark Vador commence à réaliser combien son avenir pourrait être compromis s'il ne suit pas les ordres de son maître à la lettre. Pendant ce temps, à l'autre bout de la galaxie, Dash Jennir, qui a caché son passé de Jedi à son employeuse, découvre que sa cliente n'a pas été tout à fait honnête avec lui. Elle non plus. Le travail pour lequel Jennir a été engagé est seulement une partie de ce qui doit être fait, et un Jedi ne laisse jamais quelque chose à moitié fini, même si cela veut dire se battre à 10 contre 1. Donc, avant-dernière sollicitation, Star Wars Adventures, numéro 1, Han Solo and the Hollow Moon of Coria. Synopsis. Personne n'a jamais dit qu'être un contrebandier était facile. Avant qu'ils aient jamais rencontré Luke Skywalker ou la princesse Leia, Han Solo et Chewbacca avaient déjà vécu une vie d'aventure. Dans ce récit d'action, Han et Chewie sont pris entre des gangsters de l'Empire et leur seule aide est l'ancien partenaire de Han, qui est peut-être pire que les autres. Donc voilà, ce qui va démarrer cette nouvelle série. Je me demande si ça va pas, parce que je me suis pas bien renseigné dessus, mais je me demande si ça va pas un peu ressembler à nos dessins qu'on a déjà avec The Clone Wars Adventures.
Mm-hmm. En tout cas, Dark Horse, ils sont partis en cinquième vitesse, hein, avec la quantité de produits qui sortent. C'est peut-être pourquoi qu'en France, le pas a été accéléré aussi en frais de sortie BD.
En tout cas, comme on dit, c'est pas la crise pour tout le monde. Hein.
En effet.
Enfin, je veux pas dire, mais là, le porte-monnaie, il va faire mal, quoi. Parce que avec tout ce qui arrive en ce moment, c'est vraiment, c'est impossible, c'est limite impossible de suivre, quoi.
Uh-huh.
Donc ils vont sortir. Ah oui, j'ai dit. Donc le scénario est de Jeremy Barlow, les dessins. On a juste ce dessin de couverture qui nous est donné de Rick Lassie, la colorisation de Michael Attiré. Et l'ancrage de Matthew Lux. En vente le 29 avril, apparemment. Et ça fait quand même 80 pages. Mm-hmm. Donc, c'est pas mal, quoi. Donc, pour terminer, les sollicitations. Le deuxième volume de Star Wars Adventures, Princess Leia and the Royal Ransom of Cathalda. Le synopsis, la princesse Leia, Han Solo et Chewie sont en mission pour fournir des informations vitales et urgentes à l'Alliance Rebelle. Mais Han se laisse distraire par l'idée de gagner rapidement des crédits, ignorant les suppliques de Leia et la menace des destroyers stellaires impériaux. Han fait une escale imprévue dans un dangereux repère de trafiquants pour prendre des marchandises. Malheureusement, la cargaison qu'il prend à bord du Faucon Millennium ne contient pas le genre de contrebande qu'il croyait. Ce n'est pas simple et sans danger, c'est la femme fatale kidnappée, la princesse Mi. On verra qu'est-ce que ça va donner, je suis un peu sceptique sur ces nouveaux comics, quoi. Mm-hmm. Je suis un peu sceptique. Je me demande l'intérêt et la qualité qu'il va y avoir derrière. Mm-hmm. Surtout que vu ce qui vient d'être annoncé aujourd'hui à la convention ComicsCon, dont on va parler incessamment sous peu, c'est quand même pas mal. La convention ComicsCon, on a pu voir ce webcomics introduisant le jeu massivement multijoueur The Old Republic, mm-hmm. et on a d'autres informations croustillantes qui viennent de tomber. À savoir que, vous savez que les séries Rebellion et Dark Times avaient été interrompues pour la sortie des comics The Clone Wars. Mm-hmm. Donc l'un va revenir, c'est Dark Times. Par contre, Rebellion va être supprimé. Alors il paraît que c'est soit faute d'audience, et aussi parce qu'on arrive à un moment où voilà, apparemment l'UE serait complètement blindé. Ce qui fait doucement rigoler quand on voit ce qu'ils nous sortent encore sur The Clone Wars.
En effet.
Je veux dire, c'est quand même un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Donc je trouve ça très dommage qu'ils arrêtent cette série, parce que bon, à chaque fois que je faisais des critiques dessus, c'était à chaque fois des bonnes critiques, parce que c'était vraiment des très bons éléments. C'est des histoires peu communes. On voyait enfin la rébellion de l'intérieur, alors qu'on ne l'avait jamais vue, hein, parce que finalement, la guerre civile galactique, on la connaît très peu. Par contre, la grosse annonce qui vient d'être faite, c'est que la suppression de Rébellion va faire place à une nouvelle série qui va être Star Wars Invasion. Star Wars Invasion qui va se passer pendant le Nouvel Ordre Jedi et l'invasion des Wizenvong. Donc là, au miracle, tout le monde l'attendait depuis je sais pas combien de temps, tous les fans de la planète Star Wars étaient en train de d'essayer de se prostituer devant Dark Horse en espérant un jour avoir des comics sur les Wizenvong. Et ben c'est chose faite, on va bientôt l'avoir.
On avait seulement eu un, je crois, qui était Equal and Opposite, qui était dans Star Wars Tales, qui était...
Ouais,
t'avais Cal Katarn avec un autre personnage.
C'est pas Corona Arm, plutôt, non?
Peut-être. je m'en souviens pas.
Que c'était un très bon Tales, pour une fois. Et que là, on va enfin avoir une série qui, apparemment, devrait durer un petit moment. Puisque c'est une série qui est faite pour être assez longue, si jamais elle marche, évidemment.
Ben, j'imagine qu'ils vont insérer des batailles et des scènes de planètes qu'on n'a pas vues dans les 19 romans de la série Nouvel Ordre Jedi, j'imagine.
Ben, moi, personnellement, j'aurais voulu que cette série se soit très pour très les 19 romans. Quoi. C'est-à-dire qu'ils fassent le Nouvel Ordre Jedi en roman, pour ceux qui ne lisent pas les romans comme moi.
Okay, oui,
okay. Donc là, j'aurais été très content.
Un peu comme ils avaient fait pour la trilogie de Tron.
Exactement. Mm-hmm. Que certains disent que c'est pas bien fait en comics. Personnellement, je connais que les comics. Et je la trouve très bien comme ça.
On va revoir la mort de Chewbacca, peut-être.
Ce serait bien, oui. Donc apparemment, au niveau de l'histoire... Ça se passerait dans une famille d'une planète de la bordure extérieure. On verrait le conflit sous cet œil-là. Et apparemment, le fils ou je sais pas qui sera amené à aller à l'Académie Jedi de Luke Skywalker. Mm-hmm. Donc je crois que Luke, on va le voir assez peu, même si on va le voir quand même. Par contre, d'après ce que disaient certaines interviews qui ont été données, donc d'après ce que disait Tom Taylor... apparemment, Jacen, Gianna et Anakin Solo auront un bon rôle dans cette série. Donc, tant mieux, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère que pour les néophytes qui n'ont pas lu les romans comme moi, qu'on va enfin pouvoir voir cette civilisation Wizenvong à travers les comics, et j'espère que pour ceux qui aiment les romans, ils vont pouvoir avoir des images à mettre là-dessus avec l'intégralité des castes Wizenvong, de voir toutes leurs armes dessinées, parce que je veux dire les Wizenvong c'est vraiment un monde particulier.
C'est ce que je reprochais à la série justement. Oui, t'avais les descriptifs des armes et des vaisseaux, mais visuellement dans ta tête c'est difficile à les représenter. Donc si on les a en images, ça va être exceptionnel. Là.
Ouais, moi c'est ce que je pense. Je pense que ça va être vraiment très très bon, quoi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est vraiment la grosse information qui vient de tomber, qui met tous les fans en transe. En une journée, ça a mis tous les fans en transe, ils en pouvaient plus. Donc c'est très très bien. Donc Tom Taylor, c'est le scénariste. L'artiste principal de la série va être Colin Wilson. Colin Wilson, il a travaillé sur Rebellion. Donc, je crois que c'est principalement le dernier tome de Rebellion.
Donc, c'est lui qui faisait Rebellion, il a principalement été, ils ont arrêté la série Rebellion, ils l'ont transféré dans la nouvelle série, ce dessinateur-là.
Eh ben, non, enfin, il n'était pas dessinateur principal, hein.
Okay.
Colin Wilson, de toute façon, quoi qu'il arrive, il a, je pense qu'il a fait assez peu de travail sur la franchise. Il a travaillé et sur Rebellion et sur Legacy. Mm-hmm. Donc, il a travaillé sur le volume 6 de chez Delcourt, là, le dernier qui est sorti, Petite Victoire. Mm-hmm. Small Victories. Donc, c'est très bien comme ça. Donc, c'est magnifique, quoi. Il dessine assez bien, mais bon, ce que je reprochais la dernière fois, hein, quand je faisais la critique, je trouvais que les visages étaient assez, étaient parfois assez mal faits, quoi. Mm-hmm. Je trouvais qu'ils étaient parfois assez grossiers, que le trait de crayon n'était pas forcément très bien fait, quoi.
D'accord.
Mais bon, ça c'est un détail. De toute façon, on n'a pas de, qu'est-ce que je vais dire? Non, on n'a pas vraiment d'image de tout ce qui est Usain Vong. On en a quelques-unes, quoi, mais bon. À mon avis, ce dessinateur va vraiment pouvoir se faire plaisir sur tout l'univers Wilson Bond. Mm-hmm. Ça, c'est certain. Mais je pense aussi qu'il doit avoir beaucoup de pression, parce que ça va être un truc qui va être super attendu.
J'ai hâte de voir la longueur de la série.
Là, difficile à dire. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des previews en mai et en juin, mm-hmm, sur StarWars.com. Et que la série devrait débuter en juillet, donc c'est très très proche.
D'accord.
Hein, c'est vraiment très proche. Donc d'ici là, il y a tout le monde qui espère quand même que Dark Horse fasse un arc de conclusion pour Rebellion. Parce qu'évidemment, ils ont fait plein de comics, quoi. Surtout que Rebellion, c'est plein d'intrigues avec Tank, avec Jorin Sol et tout, et compagnie, Dark Annie et tout ça. Mm-hmm. Donc on espère voir un arc de conclusion. À mon avis, s'il y en a un, il sera pas forcément bien ficelé, sachant que c'est vraiment pour terminer la série en vitesse et passer à autre chose. Mais laisser des histoires en suspens comme ça, je trouve pas ça terrible. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les comics.
Excellent, merci Louis. Étant donné que Raphaël doit quitter un petit peu plus tôt, on va passer immédiatement à la section collection et événements, donc on va commencer immédiatement.
I have something here for you. Father's lightsaber.
Excuse me, sir, but that unit is in prime condition. A real bargain.
Your lightsabers will make a fine addition to my collection.
Republic credits? Republic credits are no good out here. I need something more real.
Hey, what are you trying to push on us?
No money, no parts, no deal.
Donc, Raphaël, qu'est-ce qui s'est passé au cours du dernier mois?
Plein de nouvelles choses. On prenait des prouves parce que j'étais en train de grignoter discrètement.
Tu t'es encore fait prendre.
Je me suis encore fait prendre. Je pensais avoir le soutien de mon ami Henri pour me dire « Poké, 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 c'est à toi ». Donc, on est parti. Henri, tu es là?
Je suis là, oui.
Ah, mais tu peux pas commencer une chronique sans que tu sois là pour me dire... Donc, je crois qu'il me reste exactement 15 minutes, puisque après les 45 minutes sur l'ensemble des séries que nous a proposé notre cher ami, en fait, c'est très simple. Hein, dans l'univers de la collection, une fois de plus, on retrouve les grands thèmes habituels, mm-hmm, à savoir les sorties Sideshow, les sorties, on va dire, plus Hasbro, en différents compartiments. Donc, ce que je vais faire, c'est vous faire un petit, on va dire, un petit voyage entre dans le temps, entre la dernière émission qu'on a fait jusqu'à celle d'aujourd'hui, mm-hmm, pour vous lister les différents événements ou différents, on va dire, sorties qu'il y a eu dans le domaine du jouet. Alors, je me suis lancé un petit défi, figurez-vous. Je vais essayer de faire régulièrement en chronique la totalité des prodeurs qui sortent dans les collections de jouets pour vous dire où est-ce qu'on situe par rapport au premier du mois de janvier 2009. Mmh. Donc ça veut dire qu'à la prochaine réunion, à la prochaine émission, je vous dirai si vous en sommes près de 385 prodeurs pour ceux qui sont accros aux chiffres. Bon, on commence par Gentleman Giant avec sa sortie Clone War avec le sergent Clone Trooper en maquette. Donc là, ni plus ni moins, on va dire une sortie classique des bustes qu'on a l'habitude de voir. Donc là, dans la série maquette. Donc le Clone Trooper tout coloré de vert, je vais dire, je vais me faire taper si je dis ça. C'est un des clones qu'on avait vu dans les previews du San Diego Comics Con l'été dernier. A priori, on devrait le voir arriver dans le printemps. Donc ça fera une maquette de plus dans vos collections. Est arrivé aussi en même temps, on va dire, d'autres éléments qui ont été
tout l'univers Lucasfilm et Disney, où enfin, pour les fans, le sabre laser Mickey est enfin sorti. Ni plus ni moins qu'un sabre laser où le bouton on-off n'est ni plus ni moins qu'à tête de Mickey. Où vous essayez de saisir sa petite tête, de presser, et le sabre laser va sortir. Donc, bon combat.
C'est vraiment précis le citron. C'est vraiment précis le citron de faire un sabre avec un bouton Mickey.
Bah oui, mais je pense, tu sais, c'est un peu la relation qu'a eu Lucas avec Disney, mm-hmm. où on a reproché pendant pas mal de temps qu'il n'avait pas renouvelé des choses par rapport à l'univers de Mickey. Quand vous allez à Disney, par exemple, c'est toujours les mêmes produits qu'on voyait. Et là, depuis quelques temps, avec la licence Lucasfilm Disney, au-delà du sabre laser, qui est plus une anecdote, mm-hmm. c'est surtout toute la série des personnages, ouais. avec Dingo, avec tous les personnages qu'on retrouve en statuette, mm-hmm. ainsi que sous blister, qui est assez intéressante. Je trouve que l'idée est intéressante dans concilier les deux univers, si tu veux. Et pour une fois, c'est pas une catastrophe.
D'accord.
Parce qu'à certains univers, ou là, dans d'autres séries hors que Star Wars, où le crossover, si on peut dire, apporte vraiment à confusion. Alors, je pense qu'il y a aussi des choses qui peuvent être intéressantes pour vous, amis sportifs, dans les prodeurs. Enfin, la tête de Dark Vador en tête de bowling. Et oui, messieurs, vous pouvez vous envoyer l'effet magique, l'effet incroyable, l'effet, on va dire, de
c'est
la force.
C'est vachement sportif, le bowling, en fait.
Ah ouais.
Et bien sûr, la chute billard, Dark Vador.
Faut pas se faire prendre un coup de boule, hein.
Ouais.
Non, exactement. Heureusement, Corby est là pour soutenir. Oui, bah, attendez, Dark Vador en tête de bowling, vous mettez de l'effet, vous êtes sûr de faire strike à chaque fois.
Ouais, avec les Key Stormtroopers, c'est encore mieux.
Exactement. Je vois que tout le monde est fan de sport de haut niveau, à forte connotation ultra sportive. Après,
bah, surtout
maintenant...
avec une bière à côté, quoi.
Ouais.
Gentleman Giant sortait lui aussi un nouveau buste, le buste de l'air porn. Donc pour ceux qui auraient loupé cet achat, il était disponible sur starwarshop.com. Je me suis précipité, j'ai cliqué et j'ai annulé quand j'ai vu les frais de port. Donc il faut être réaliste, au jour d'aujourd'hui quand même, sur beaucoup de prodeurs qu'on peut acheter à travers le monde, de plus en plus, les frais de port restent quand même un frein à l'achat sur beaucoup de prodeurs.
En effet.
Aussi bien sur les comics que sur les livres. Hasbro. Eh oui, Hasbro, toujours là pour nous épater comme pour nous faire pleurer. Et là, ce n'est pour nous amuser avec un nouveau comic pack. Alors, les comic packs, pour ceux qui ne savent pas trop de quoi il s'agit, c'est ni plus ni moins que l'association de prodeurs avec une série derrière. Un petit magazine. Alors, je laisserai les spécialistes des comics on va dire les illustrer, parce que malheureusement, moi, je ne fais que les jouer. Mm-hmm. Et vous avouerez que je les achète, mais j'ai jamais lu les comics qu'il y avait derrière. Donc, dans
ouais,
la série,
temps, je vais te dire, je vais pas aller acheter les jouets pour avoir les comics de derrière. Hein.
Bah, à la limite, moi, j'achète. On partage les frais. Toi, tu prends le comics et moi, je prends les figurines.
J'avais pensé à ça.
Il y a un problème, voilà. Si tu les laisses emballer, par exemple.
Non, ah mais bah par contre, je veux bien que tu me les envoies en scan.
Pourquoi pas ? Tiens, je voudrais que j'y pense, mais je pense que le scan de revue est interdite. Donc, pour revenir sur le Comics Pack, inclut les figurines. Donc, accrochez-vous, parce que mon anglais est assez difficile. Alors, comment on prononce un N, un R, un I et un N ? Nerin Valkim et Ipstan, tiré du comics dans les X-Wing Rogue Squadron. C'est un des personnages. Alors, j'ai du mal à prononcer les noms, excusez-moi. Mais je pense que le jour où ils ont conçu les noms de certains personnages, la machine avait des fautes de frappe. Ils devaient soit oublier les consoles, soit les voyelles. Malheureusement. Donc, pour revenir une fois plus sur Hasbro a sorti encore une nouvelle série, encore une série 5 de Clone Wars. Pour rattraper ce qu'avait dit déjà dans la chaîne chronique, quand est-ce qu'ils vont arrêter Clone Wars? Je pense jamais. La petite poule aux œufs d'or. Donc là, sur cette série, il y aura bien sûr un droïde de combat, un clone du 41e, un Jar Jar Binks, et oui, en robe Jedi. Et oui, Jar Jar Binks a une robe de Jedi. Et Kit Fisto...
On va tous crever. Donc...
Non, non. Mais ça mérite le détour d'aller jeter un coup d'œil, parce que sa veste dessous en bleu électrique fait de lui quelque chose d'assez, comment dire, un peu... j'ai pas supporté sans doute une soirée un peu animée où j'étais déguisé, mais c'est assez, comment dire, c'est Hasbro, voilà, si je peux me permettre de dire ça. Hasbro, pour le meilleur comme pour le pire. Sancho revient lui aussi avec de nouveaux personnages, l'amiral Pitt en 12 inch. Donc là, ni plus ni moins, c'est une série qu'avait lancé Sancho, toute une série de personnages dans cette dimension-là. Où là, une fois de plus, je pense que Sancho a fait un petit effort au niveau du visage, qui est un peu plus saisissant que d'autres personnages dans d'autres, je peux citer par exemple Anakim. Là, le personnage est bien proportionné, le visage est assez, on va dire, humain, pour une fois. Je continue avec excusez-moi. Je continue encore avec je vais pas y arriver, hein. Sideshow. Répétez après moi. Sideshow.
Sideshow. Henri, qu'est-ce que t'as fait à Raphaël?
Le Sand Trooper Sergent arrive enfin chez Sideshow. Donc, pour ceux aussi qui l'attendaient. Donc là, je pense que beaucoup de collectionneurs étaient en attente de ce personnage. La précommande avait commencé, il y a de ça quelques temps à 19h. Et je peux vous dire que le site était saturé pour pouvoir, on va dire, passer une préco. Donc c'était celui de l'épaulette blanche qui représentait ce fameux Sand Trooper. Donc ça, c'était que dans les mois. Alors encore du Hasbro, encore du Hasbro, encore du Hasbro. Et pour faire plaisir, du Hasbro avec les figurines exclusives Disney. Avait sorti une nouvelle série pour la série Star Tour. Star Tour, c'est le petit manège à sensations qui vous emmène dans l'univers de Star Wars.
D'accord.
Welcome into World, comme dirait l'autre. Donc là, une série incluant une multiple type de personnages. Je vous ferai grâce de tous les noms, mais sachez qu'on va du pilote en passant par Greedo jusqu'au personnage assez comique. Donc là, je vous conseille, c'est pas une fausse pub, d'aller jeter un coup d'œil sur le site de Meet Inbox qui a le visuel des personnages en tête de Mickey. Et je peux vous dire qu'il y a certains qui méritent vraiment le détour. Donc voilà, on va dire pour ce gros mois de janvier qu'il y a eu. Alors bien sûr, je vous ferai grâce aussi que Hasbro a sorti la série Legacy, que Hasbro a sorti aussi un pack AT-ATE. Toutes ces choses-là étaient amplement attendues et avec grand plaisir sont arrivées. Gentleman Giant a sorti lui aussi encore une nouvelle maquette, à savoir le Comte Dooku. Donc là aussi, c'est une histoire de goût. Certains n'apprécieront peut-être pas le visuel ni le graphisme, mais je trouve que l'idée est assez originale de faire un 3D, on va dire, de ce produit sur la maquette. Et le Comte Dooku répond bien à cette attente. Hasbro va nous sortir sans doute une petite, alors je ne sais pas pour dire Jens, une petite tuerie, un Turbo Tank. Alors le Turbo Tank en projet, a priori, serait un jouet télécommandé ou commandé. Donc là, je reste un peu sur le doute de l'outil. On a beaucoup de spéculations sur ce document-là. Donc le Turbo Bank est une chose à aller surveiller de très près chez Hasbro. Je pourrais encore parler pendant des heures et des heures de l'ensemble des jouets. Je pourrais vous dire que le petit Yop, le petit bonheur du petit déjeuner, du petit 4 heures, a sorti une série Clone Wars. Donc là aussi, précipitez-vous dans la grande surface, achetez un petit yogourt et vous pourrez collectionner l'ensemble des personnages Star Wars. Si le yogourt ne vous suffit pas, vous pourrez toujours vous jeter sur l'épaisse Star Wars avec les personnages de R2-D2, de Dark Vador, avec 4 parfums. Donc je ferai grâce des parfums parce que j'ai goûté les 4 parfums et je peux vous dire qu'il y a des choses à vérifier au niveau du goût, ne serait-ce que le parfum cerise. Gentleman Giant nous a encore sorti un petit diorama de toute beauté. Alors pourquoi de toute beauté? Parce que c'est rare quand je fais des compliments de différentes figurines. Je reste toujours sur le côté un peu chacun peut interpréter les goûts et les couleurs. En fait, il s'agit tout simplement d'une scène où il y a Boba Fett qui marche suivi de deux Stormtroopers et la carbonite, pas la kryptonite, j'ai bien noté. Han Solo est à l'intérieur qui les suit et on a un peu de lévitation quand on voit la figurine, on a l'impression que celui-ci flotte. Et je trouve que cette scène est, en fait, ce qui me dérange, c'est l'échelle. J'attends de voir l'échelle. Parce que ce qu'on était souvent un peu surpris chez Gentleman Giant, c'est qu'on est toujours, comme dans beaucoup d'éléments, agréablement alléché par la photo, mais un peu déçu quand on le reçoit par rapport à l'échelle des différents éléments graphiques. Hasbro, qui ne continue pas de nous alimenter, mais qui nous inonde aussi avec sa série Titanium. Alors, à chaque fois que je fais le lien avec Hasbro, je fais un peu le lien à ce qu'avait évoqué auparavant au niveau des séries. On disait qu'on était inondé de titres. Bah, je pense que Hasbro, entre sa série Midnight Nut, entre sa série Titanium, entre sa série Clone Wars, entre sa série Legacy, entre sa série... Ouah, j'ai plus de souffle. Je pense va ruiner plus d'une personne. Donc, faut être vigilant, car je pense que là, il y a encore énormément de produits qui vont sortir. Quand je dis énormément, il va de même pour Lego. Lego qui nous amène de plus en plus vers des univers de briques, où on retrouve le croiseur qui est impressionnant. Je sais pas si vous vous souvenez du premier Lego du grand vaisseau Star Destroyer qui était immense, immense, immense.
Oui, oui, là, oui. Un de mes rêves. Ouais.
Tout à fait.
Le rêve de n'importe quel gosse.
Bah, je suis un gosse alors. Et ils ont sorti le classe... Ah, le classe Venator en fait, ils ont sorti aussi.
Aha. Ah
oui.
Est-ce que c'est celui qui avait à Célébration 3 le en grosseur là, il avait fait un gros Venator, je crois, en Lego qui était 1m30, immense.
1m30. Ouais. 11 800 pièces.
Oh la vache. C'est un truc alors, aussi, là, c'est intouchable au niveau financier ça.
C'est le genre de produit, quand vous l'installez, vous prenez une pièce, vous numérotez les pièces une par une, vous prenez votre temps, et bonne chance. Et vous lisez le mode non plus.
Et au bout de 3 mois, vous avez enfin terminé.
Et ça prendra vite la poussière.
Il te reste genre 5 pièces à mettre, et il t'en manque une, t'es obligé de tout le défaire, le réemballer pour le réenvoyer.
Non. Là, vous me sapez le moral. Sachez que Lego est une bonne idée. Une idée qui a été déjà inventée par beaucoup de personnes, à savoir de faire, vous savez, un produit exclusif, vous achetez 30 emballages, les 29 sont identiques, puis il y en a un qui est collector. Et ben, Lego a fait la même chose avec un Dark Vador. Figurez-vous que Lego a eu la bonne idée de mettre un Dark Vador Black Chrome Lego dans une boîte. Mm-hmm. D'une série. Maintenant, la série, je peux vous donner. Maintenant, acheter toutes les boîtes, je ne peux pas. En fait, c'est pour fêter son 10e anniversaire que la licence a eu l'idée de placer au hasard, dans certains sets 2009, une figurine Dark Vador en version black chromée. Mmh. Donc là, je peux vous dire qu'il va y avoir des acheteurs, et la personne qui va la voir va se précipiter, s'il souhaite faire l'argent, sur un site de vente aux enchères, et je serais surpris de voir le prix un peu, on va dire, exorbitant.
3000 euros de Dark Vador Lego.
Sans les frais de port.
Bien sûr.
Donc Hasbro, comme je disais, avait sorti la série Legacy. Sort aussi, vous savez, ces produits Transformers, alors qui peut avoir son cercle de fans ou d'irréductibles. Mais sachez que dans les Transformers, il y a le Capitaine Rex qui se transforme en ATTE, d'accord. Okay. Le clone pilote qui se transforme en V19 et Dark Vador qui se transforme en T-Avenge. Je vois que vous ne suivez pas les chroniques, mais bon,
c'était mon... Dark Vador se transforme en quoi?
En T.
TIE Fighter.
TIE.
Ah oui, d'accord.
TIE Quendo.
Mais c'est parce que, Raphaël, quand tu parlais, on essayait d'imaginer comment que ces personnages-là pouvaient se transformer en ce véhicule-là.
Ah mais carrément.
Alors, je pense que là, il faut en avoir moins dans les mains et faire le test. Et là, vous dites que les gens qui pensent ce type de produit, qui conçoivent ce type de produit, c'est comme les Transformers, je suis impressionné, quoi. Mm-hmm. Impressionné. Bon, je dis pas que ça ressemble, on est bien d'accord, mais le fait de transformer d'un vaisseau un personnage est assez saisissant. Bon, après, on peut critiquer, c'est vrai, c'est des personnages qui sont un peu, on va dire, un peu cubiques, on va dire, un peu démembrés. Mais bon, ça reste quand même à jouer, voilà.
Ne faisons pas plus. On peut pas tout avoir, quoi.
Jouer. Exactement. Et ce n'est qu'à jouer, je dis souvent. D'accord. Donc pour revenir sur tout à l'heure, on évoquait le Comic-Con de New York ou le Comic-Con d'un autre lieu.
C'est de New York.
Voilà, qui a lieu en ce moment. Bah, ouais. Savez-vous que le New York Comic-Con, c'est aussi pour nous le premier approche des futures sorties pour 2009. Alors on sera sans doute que dans des séries un peu particulières, donc que Kotobukiya va continuer la série Clone Wars. Que Diamond Select va aussi sortir d'autres séries, donc ça veut dire qu'ils ont toujours la licence. Et ce qui était surprenant, donc c'est au détour de certaines photos. Je sais pas si vous connaissez la série des Mi-Tight Mug. Vous savez,
les Mighty Mug, ouais. Danny...
Ouais. Et bien, il semblerait qu'il fasse un Jabba.
Oh mon dieu.
Et un Han Solo dans la carbonite. Dans la kryptonite. Non, dans la carbonite, pardon. Et un Han Solo aussi dans la carbonite. Mm-hmm. Alors, j'ai des photos, mais je peux vous dire que quand je vois les photos, voilà, je préfère fermer mon écran.
Ouais, c'est pas mon fort non plus, les Mighty Mug, c'est trop rond, ça a trop l'air d'une peluche gonflée, ou je sais pas trop, c'est pas vraiment...
Non, je pense que c'est surtout un clin d'œil au Hard Toys Design, qui a un peu tendance actuellement, où ils ont essayé de se positionner par rapport à une série bien particulière avec leurs propres références. Je pense que c'est là-dessus où le Mighty Mug a voulu se positionner. Et quand tu regardes, ils ont sorti beaucoup de séries. Hein. Il y a eu aussi, j'ai vu une série Les Tortues Ninja. Ouais. J'ai vu aussi
les Marvel.
Tout ce qui est comics. Ouais, Marvel et compagnie. Mm-hmm. Je pense que c'est propre, propre à une culture spécifique dans cet univers-là. Après, il faut voir ce qu'il en est. Dans l'art toys, dans les petits jeux de ce type-là, il y a surtout, on va dire, ceux qui ont défrôné la chronique. C'est tout ce qui est lié au... Ah, j'ai perdu mes mots, tiens. Aidez-moi. Alors, je cherche un petit personnage qui ressemble à un Lego, qui se collectionne, et qui n'est pas à la figurine de Lego.
Les mobiles?
Les Playmobil, non?
Non.
Qu'est-ce que ça pourrait être?
Vous pouvez me poser des questions sur la littérature, je trouve que c'est mauvais que vous, je vous rassure. Hein,
on est vraiment des tartes.
Non, je ne permettrai pas.
Les Kubrick, merci ma table.
Bravo! Voilà.
Je l'aime pas, alors là, je vais me flageller. Comment...
C'est ça, c'est ma table dans le chat qui l'a mentionné, c'est les Kubrick.
Merci au chatteur qui a eu cette petite éclair de génie. Oui, Kubrick va nous sortir une nouvelle série de personnages avec des exclusifs. Donc là, je crois que ça ressemble plus à l'univers, on va dire, urbain, Urban Toys, plutôt que les Mighty Boys, je vais y arriver, hein, qui eux restent quand même un peu plus, on va dire, ronds et un peu plus enfantins, peut-être. Mm-hmm. Mais là, je ne porterai pas de jugement de valeur. Hein. Chacun voit le plaisir dans ses jouets. Alors, il y a une petite nouveauté, en fait, parce que depuis, on va dire, un moment, on attendait un personnage encore chez Hasbro, qui est le rancor. Le rancor de Jabba va sortir, mais malheureusement, sera une exclusivité une fois de plus Target. Donc, à moins de se rendre aux États-Unis, il sera difficile de l'acheter, ou peut-être chez nos revendeurs locaux. C'est ni plus ni moins le rancor avec Luke Skywalker, avec son sabre qui l'attend dessous, pour s'amuser avec lui.
Mais le rancor, là, est-ce qu'il est différent des autres sorties auparavant, ou c'est tout simplement qu'une figurine de Luke avec le rancor?
Bah, non, le rancor est quand même beaucoup plus travaillé, beaucoup plus, on va dire, la dorsale est un peu plus épineuse, si je peux parler dans ces termes-là. La texture est un peu plus travaillée, un peu plus couleur chair, un peu plus couleur terre.
Okay.
Tu vois, et beaucoup plus, il peut lever les bras, baisser les bras, il est un peu plus, on va dire, un peu plus mobile.
Entre nous,
ça reste quand même assez statique. Mais bon, ce que je lui reproche, moi, justement, c'est l'autre côté, c'est qu'il trouve un peu trop coloré. Tu vois, contrairement à la série qui nous a fait un peu un rancor, un peu monochrome, on va dire, là, il est un peu trop coloré pour moi, avec du blanc, du marron, du vert et tout. Mais après, c'est une histoire de goût et de couleur, là, je me permettrai pas de porter, c'est mon avis et n'est pas un avis généraliste, hein. Bien au contraire. Donc le Toy Fair, ce que je préfère évoquer, c'est pas rentrer dans les détails et en parler la prochaine fois.
Mm-hmm. Est-ce que tu parles de celui de l'Angleterre Target. Ou celui des États-Unis?
Des États-Unis que je parlais là.
D'accord.
Le Toy Fair?
Ouais.
Le Toy Fair, pardon, je parlais de New York.
Ok, c'est ça.
Voilà, tout à fait. Excuse-moi. Donc c'est pour ça que je préfère être, on va dire, préfère garder ça pour une prochaine chronique et dévoiler ce qu'il y a de plus lisible. Alors, pour revenir sur l'histoire du Captain Rex et du ATTE, j'ai les images de transformation devant mes yeux et je peux vous dire, oui, c'est quand même pas trop mal.
Ok.
Bon, je retire ma critique un peu salace, où je portais un jugement de valeur complètement décalé. Et on finira par UFX, qui nous a sorti un nouveau sabre, qui est le sabre d'Ahsoka. Donc là aussi, je présente mes excuses par rapport à mes propos sur Ahsoka que j'ai pu avoir en micro ouvert ou micro fermé tout à l'heure. Et UFX nous sort un des premiers sabres de la série télé, on va dire, dessin animé, de ce sabre-là. Le prix de vente est à l'heure actuelle aux alentours de 350€, on va dire.
Ça fait une différence de prix par rapport à Master Replica. Hein.
Oui, tout à fait. Mais après, c'est, là, si tu veux, celui-ci, contrairement à Master Replica, c'est pas avec le tube, c'est vraiment... Le plaqué avec une dédicace. Alors j'essaie de savoir qu'est-ce qu'elle a dédicacé, figure-toi.
C'est Dave Filoni, c'est le réalisateur de la série Clone Wars.
C'est ça.
Ah oui, d'accord, donc c'est les collecteurs sans l'âme, comme ce qu'on avait
voilà,
sur Master Replica pour les numérotés, là.
Exactement, c'est Dave Filoni qui l'a dédicacé.
Ok. Voilà. Et au niveau qualité par rapport à Master Replica.
Alors, c'est là que je vais me faire des ennemis, je pense. Parce que si tu veux, il faut pas oublier qu'avant tout, quand on regarde les outils qui sont les sabres, c'est ni plus ou moins l'usinage. Mm-hmm. Donc l'usinage après il est plus ou moins fait suivant les séries. Après, je pense que c'est une histoire vraiment de toucher et de sensibilité. Il y a des gens qui vont absolument pas supporter, par exemple, un sabre que tu portes avec un... Excusez-moi, je me casse la figure en direct, je reviens sur mon siège. C'est ça le problème de se balancer en arrière quand on a une réflexion, qu'on essaie d'apporter un peu d'intelligence à ses propos. Donc quand tu prends par exemple un flash graflex et que tu le modifies, mm-hmm. c'est des choses que tu fabriques toi-même, donc t'as pas le même plaisir qu'un sabre tout fait. Mm-hmm. Après, EFX, je pense que la qualité va retrouver à peu près celle de Master, parce que pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un changement de licence, mais pas un changement de fabrication. Mm-hmm. Voilà.
Ah d'accord.
Et c'est, ouais, mais après, c'est une histoire d'appréciation. Je pense que il faut pouvoir comparer les uns avec les autres. Je me souviens des comparaisons qu'on faisait à l'époque sur les sabres entre les séries LE, les séries SE. Pour le même sabre, tu avais plusieurs catégories de finition. Mm-hmm. Et après, je pense que c'est surtout une affaire de perso, une affaire personnelle. Et puis, si je peux me permettre une fois de plus. Je pense que c'est surtout une interprétation marketing des produits. Voilà.
Mm-hmm. Parce que
je pense ouais. que...
Vas-y.
Pardon. Non, Danny, vas-y, vas-y.
Ben, moi, c'est plus la pertinence de ce produit-là, plus en particulier. La série Clone Wars est destinée en général aux enfants. C'est certain qu'il y a beaucoup de parents et des personnes comme moi et vous qui l'écoutez quand même. Mais en général, ceux qui vont s'acheter ce genre de choses-là, les collectionneurs achètent quelque chose sur lequel ils s'identifient, comme le sabre de Luke ou le sabre de Darth Vader. Mais dans ce cas-ci, c'est Ahsoka Tano qui est un personnage qu'on voit dans la série télé, qu'on n'est pas vraiment attaché à ça. C'est plutôt les enfants qui sont attachés à Ahsoka, qui voudraient avoir ce sabre-là. Et en plus, ce n'est pas un sabre qui a un tube, justement, c'est pas comme un Force Effect, donc tu peux même pas jouer avec, tu le mets sur ton étagère et tu l'admires tout simplement, donc j'essaie de voir la pertinence un peu d'avoir un sabre
oui, de ça. Ils vont bien sortir l'équivalent des FX, non?
Alors là, c'est une question que je me pose sur toi, mais ce que vient de dire Danny est assez parlant dans le sens où les sabres, on les sortait auparavant parce qu'on avait un visuel, on avait une utilisation dans le film réel. Donc, ça nous apportait quelque chose d'assez pertinent. Mm-hmm. Tandis que là, comme c'est un univers 100% dessin animé, c'est vrai que ça me portait un peu à conflit, peut-être. Mm-hmm. C'est vrai que j'aurais préféré plutôt un sabre plus, on va dire, plus dessin animé, si mm-hmm. tu veux, dans le sabre laser. Tu vois, plus plastique, plus...
Ouais, ouais.
Plus dans l'univers graphique que dans l'univers... d'essayer de rendre humain, tu vois, ou un peu plus, on va dire, réaliste. Attends. Quand je dis ça, je me ridicule un peu parce que je suis en train de dire que Star Wars c'est réel. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi.
Non mais surtout quand tu vois les problèmes dans l'espace, quoi.
Voilà. Non mais c'est pour ça que ramener à une réalité, je pense qu'il faut le prendre comme tel après tout, comme un prodeur, comme un produit. Le fait que le réalisateur ait signé le produit apporte peut-être une valeur un peu plus, on va dire, collection. Mais c'est vrai qu'on peut toujours porter une critique dans le sens où j'aurais préféré quand même plus rester dans l'univers BD, dans l'univers, pardon, dessin animé, et faire quelque chose qui ressemblait plus à l'univers dessin animé, on va dire. Mais après, c'est une interprétation qui est personnelle.
C'est certain, mais comme bon. Dans le chat, ma table mentionne que, oui, il va être tiré à un nombre limité, c'est certain. Donc,
tout à fait.
C'est certain. 1000 exemplaires. C'est certain. Combien?
1000.
1000. Donc, c'est certain qu'il y a 1000 personnes qui vont se le procurer. C'est assurément surtout oui. qui est signé par des Filoni.
Mais c'est un objet de collection, de toute façon, c'est pas destiné pour des enfants.
Non, mais exactement, mais c'est parce que c'est un personnage que les enfants s'attachent, tandis que ici, ils font tout simplement un produit. Bon, ben, on va se faire beaucoup d'argent avec ça, tout simplement parce qu'il est signé, puis...
Mais vous vous rendez compte, dans nos conversations depuis trois émissions entre Henri, Louis et toi, Danny, mm-hmm. c'est qu'on est de plus en plus à regard un peu critique face à l'aspect financier de Star Wars dans chaque
fois. En effet.
Où on dit,
ça a toujours été comme ça.
Oui, mais je pense que...
On paye tellement qu'on doit être exigeant, je pense.
Tu crois?
Ouais.
On n'est pas obligé d'acheter.
Comme avec les... Oui, non mais ouais. D'accord, mais bon...
C'est
Henri. Bah, je pense, oui, évidemment, et que comme on est limité par l'argent, on est très très sélectif. Enfin, moi, je suis beaucoup pour tous les trucs qui sont comme ça, les prodeurs comme ça. Par contre, moi, les livres, j'achète tout. Donc,
voilà.
J'attends pas d'avoir les critiques avant d'acheter.
Ouais, je pense surtout que ça prend un aspect vachement plus personnel dans l'achat de tel ou tel produit. Certains vont trouver ce produit comme un Graal, dans le sens où ils pourront mettre un élément physique et kinesthésique, si je peux dire, par rapport au dessin animé. Mais après, c'est vrai qu'on peut porter une critique en disant pourquoi sortir ce sabre dans une optique un peu plus réaliste, quoi. Alors que c'est un dessin animé. Contrairement à un film, on a plus une notion de réalisme.
Mais ta suggestion de l'avoir fait en format animated, comme ils ont fait des statues en format animé, ça aurait été peut-être une bonne idée vraiment de faire ça de cette façon pour rester dans le même cadre.
Non, mais j'aurais mieux fait de me taire, ce qui aurait l'idée de le faire et ça va encore nous coûter de l'argent.
Ah, t'es pas obligé de l'acheter non plus.
Oui, mais c'est ce que dire.
Ça veut dire qu'ils nous écoutent. Et ça veut dire que s'ils nous écoutent, ils doivent pas trop nous aimer vu les critiques qu'on leur fait.
Non, parce que je pense que les critiques, que ça soit toi, Louis ou Henri sur les produits ou Dany, on reste quand même assez avec beaucoup de recul malgré tout. On n'est pas non plus obtus à dire, ouah, ça, il faut, ça, c'est le meilleur du monde, ça, c'est mauvais. Non. Je pense que les prodeurs qui ont tant de valeur que d'autres, que je parlais de la boule de bowling qu'on rigolait avec beaucoup tout à l'heure, ou des séries comme Midnight Mug, je pense qu'il y a tout. C'est ce que nous offre aussi l'univers Star Wars, c'est qu'aujourd'hui, un collectionneur peut très bien collectionner prodeurs à moindre coût et avoir autant de plaisir que quelqu'un qui collectionne des prodeurs à coût élevé, comme dans la BD. Je pense dans la BD. Alors là, dans la BD, je me relance vers vous deux, Louis et Henri et Dany ici, pardon. Parce que s'il y a bien un profane dans cet univers-là, c'est bien moi. Et j'espère qu'au fil des émissions, vous me donnerez envie de m'y plonger. Belle transition pour Henri, non?
En effet.
Le mec qu'on a marre de faire sa croûte.
Ah non. Moi, j'ai tenu les 20 minutes qu'on m'a dit et pas les 45 comme toi.
Mais il reste quand même.
Oui, parce qu'on a des horaires imposés et si on les tient pas, et ben on nous lapide.
Exactement. Santé.
Non, mais j'avoue que quelqu'un qui collectionne seulement les sabres répliques, c'est parfait, achetez-le. Là. Il y en a, j'en connais qui collectionnaient les FX là, les de Master Replica, oui. Puis qui les affichent sur leur mur allumé, c'est super beau. Donc oui, collectionner dans ce cas-ci, mais bon, de faire un sabre personnage de dessin animé, c'est la pertinence.
Tu as un FX allumé sur ton sur une de tes commodes, au bout d'un moment, t'en as marre parce que le bourdonnement de la lame.
c'est comme le supplice de la goutte.
Est-ce que vous battez pas avec vos sabres laser chez vous?
Non, pas vraiment.
Ah, bah c'est le sacro-saint, mon FX, hein. J'y touche pas. Alors, à chaque fois que je vais m'accuser, je vois des fous qui sont en train de taper comme des malades avec leur FX. Si je faisais ça avec le mien, j'en serais malade, quoi.
Mais cependant, je pense que Hasbro ferait autant d'argent, même plus, s'il ferait un sabre vraiment pour les jeunes avec la lame qui s'ouvre, là, en plastique.
Ça existe, hein.
Celui d'Asoka existe?
Non, pas d'Asuka, mais...
Non, mais c'est ça, d'autres... mais c'est ça, faire...
Ça viendra, faire
celui d'Asoka dans ce format-là, il va, d'après moi, va se vendre énormément plus que 1000 copies, même à 300 quelques dollars, même plus de la réplique réelle, donc.
En fait, je pense qu'Hasbro, il devrait réfléchir, pas à faire des sabres qu'ils font, alors... Non, mais ça va paraître prétentieux, c'est sûr, mais pas à faire les sabres qu'ils font à l'heure actuelle, parce qu'en fait, on a deux types de sabres qu'on peut retrouver sur le marché. C'est les sabres qui sont super finis, comme les Master Replica et autres, et à côté, on a les sabres Hasbro qui sont un peu plus gros, parce qu'ils ont des grosses lames dépliantes en plastique. Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils sortent, comme dit Dany, un format réel de sabre, mais en plastique, tu vois, qu'il soit pas un gros sabre, mais qu'il soit... vraiment la taille 1, et avec simplement un bâton que tu peux enlever et remettre pour t'amuser, quoi.
Alors c'est plus un jouet, puisqu'on peut pas mettre ce genre de prodeur sur le marché. Il y a eu des petits essais comme ça, mais ils sont fait taper sur les doigts. Ils peuvent pas laisser de choses rigides qui peut donner des coups. C'est leur responsabilité en fait. Donc c'est plus un jouet.
D'accord.
Donc c'est plus un jouet, ils le vendent plus. J'avais posé la question à ça quelque temps à des fabricants de jouets pour certains prodeurs, pour des déguisements, par exemple, parce qu'on a à côté de chez moi, j'ai ceux qui fabriquent les merveilleux déguisements de Dark Vador que tout le monde connaît, dont je ne citerai pas le nom. qui sont merveilleusement de qualité et de fabrication artisanale. J'aurais posé la question pourquoi ils mettaient pas des vrais éléments. Mais en fait, ils ont des contraintes au niveau de la licence et au niveau de la législation pouvant des produits à travers le monde, de pas mettre ce genre d'éléments dedans ou pas être, on va dire, pénalisés. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des séries de sabres où tout était démontable, avec des lames rigides, pour pas être pénalisé, mais avec une limitation au niveau de l'usage. Je crois que c'est interdit aux enfants de moins de 12 ans, moins de 9 ans. Et pour eux, ça avait quand même des pertes colossales de pas avoir ce public-là.
J'ai pas besoin de vous expliquer comment que certaines armes, ben, de Star Wars, quand on voit des conventions aux États-Unis traverser les frontières avec des répliques d'armes Star Wars, pour ceux qui ont des costumes vraiment au poil, je veux dire, les douaniers et ceux qui s'occupent des services frontaliers n'aiment pas vraiment ça.
Exactement, mais tu évoques des choses assez parlantes parce que moi je transporte souvent mon R2-D2 avec des pièces et des choses comme ça en résine et tout, ou le pistolet de Han Solo pour le montrer à certains copains qu'on collectionne, parce qu'on met dedans des animations électroniques. Et j'en avais parlé avec des gens qui sont dans la gendarmerie et la police pour leur parler. Et ils me disaient que c'est un gros problème pour eux, le transport de ce type de produits, comme le transport d'armes, comme le transport de balles de baseball, tout ce qui peut être considéré comme un produit dangereux, d'accord, peut être mis à un contrôle et une conservation. Ça veut dire qu'il peut très bien conserver le sabre laser en jugeant qu'il peut être dangereux sous la voie publique.
On peut arrêter de se foutre de notre gueule, c'est quand même n'importe quoi des fois.
Ouais, mais c'est comme tout. Je veux dire, c'est l'usage des choses qui est n'importe quoi. C'est pas l'outil en lui-même.
Mais bon, quand les douaniers savent qu'il y a une convention, parce que ça arrive, qu'ils savent, donc ils te font un sourire puis ils comprennent. Comme je me souviens à Célébration 3, il y avait Master Replica avait, t'étais là, Raphaël d'ailleurs. Master Replica avait un kiosque où est-ce qu'ils vendaient leur sabre FX qui venait tout juste de sortir à 100$, qui était très peu cher. Et j'ai beaucoup de personnes qui ont eu de la difficulté à les ramener chez eux au Canada parce que, bon, c'était des sabres. Et puis tout ça, les douaniers se demandaient c'était quoi. Et puis
Exactement. Donc, emmenez bien
la lame. Mais en fait, les sabres laser existent.
Enfin.
Oui, c'est ça. C'est ce que tu viens de dire, Louis. Renaud dans une irréalité. Et malheureusement, des fois, la science-fiction, on a tendance à la ramener à une réalité du quotidien. Comme tout à l'heure, on évoquait pour les sabres et tous les collectionneurs et tout ce qui peut être lié. Donc voilà pour l'ensemble des jouets. Hein. Je pourrais encore parler pendant des heures et des heures et des heures, mais je vais laisser la place à Henri.
Est-ce que tu as quelque chose par rapport aux événements avant de quitter ou
Ouh, bah si tu veux les événements, j'en ai plein.
Big turnout here from all corners of the Outer Rim territories.
Order! We shall have order!
The crowds are going nuts!
Oula, ouais, bah on va y aller. Oula,
à la fin du mois, je m'en vais. À la fin du mois, je prends ma valise et je vais à Migennes. À Migennes, il y a une petite convention, j'aime bien dire petite convention. Il y a une convention Star Wars avec plein d'acteurs. Il y a Richard Le Parmentier qui se déplace. Il y a les frères Bogdanov. Est-ce que Dani, tu connais les frères Bogdanov?
Est-ce que c'est, il y en a qui faisaient Kit Fisto? Est-ce que c'est ça?
Non.
Non, mais c'est pas l'acteur.
C'est fou, quoi. Ils vont être contents.
Non, mais c'est pas l'acteur qui faisait, un des acteurs qui faisait Kit Fisto, non?
Non.
Ah, ok.
Non, mais ils auraient pu, hein.
Alors, les frères Bogdanov, c'est le résultat d'une expérience génétique qui s'est mal passée. Ils sont jumeaux. Et ils seront présents. En fait, ce sont des présentateurs d'émissions de science-fiction assez récurrentes dans les années 80. Et puis, tu sais, encore quelques temps, ils animaient une émission qui s'appelait...
Science X, est-ce que c'est ça, Science
comment?
X? Science X.
X, exactement.
J'ai écouté ça tout à l'heure à la télévision, imaginez-vous donc.
Ouais. Et ben, c'est les frères Bogdanov qui étaient dedans, avec la 501e en tâche de fond, qui étaient là pour agrémenter cet univers. Ils seront aussi présents, donc, à Migennes. Il y aura une petite exposition, quand je dis petite, parce que, pour pas rentrer dans les détails, mais... une sacrée collection sur l'univers de Retour dans le futur. Avec une immense présentation de Prodeur, ainsi qu'une DeLorean, et ainsi que plein de produits de la série.
D'accord.
La série télé, je parle bien des trois films, pardon. Donc il y aura ça, il y aura aussi pour les fans irréductibles comme moi des Simpsons, les doublures voix de Marge et d'Homer. Il y aura aussi l'acteur de... Ah bah voilà, c'est à chaque fois qu'on pose les petites colles comme ça du matin, je suis perturbé. L'acteur qui a joué dans Roulement de tambour. Le roulement de tambour, c'est le temps que je fasse le clic sur mon écran. Hein. On est bien d'accord. C'est pour ceux qui n'ont toujours pas compris la technique, il conseille de faire le roulement de tambour et de meubler par des propos complètement irrationnels. Vous savez, l'acteur qui jouait dans Capitaine Apollo, vous sonnez dans la série originale de Galactica.
Richard Hatch.
Voilà. Il a aussi remplacé Michael Douglas dans Les Rues de San Francisco, quand même, hein, je tiens à vous le dire, quand même. Il sera aussi présent. D'accord. Et puis une grosse exposition sur les Lego Star Wars, organisée par Freelug, où là, il y aura tout un univers de Star Wars, une fois de plus, présenté, qu'on avait déjà pu visualiser à QC l'année dernière. Donc ça, c'est pour la fin du mois, et je m'y rendrai le 28 février au 1er mars.
D'accord.
Donc si, Dani, tu fais une émission pour le 1er mars, je ne serai pas disponible.
Non.
Donc, et puis pour revenir aussi sur notre événement qui a lieu au mois de mars, le 28 et 29 mars, où c'est le Kiwani Force Event, où là je te confirme, les acteurs Jeremy Bullock alias Boba Fett sera disponible, Richard Le Parmentier, Amiral Motti sera disponible, Kenneth Coley, l'Amiral Piet sera disponible, Michael Culver, le Capitaine Neda sera aussi disponible, Barry Holland, Lieutenant Reigns sera aussi disponible et le et j'allais oublier et Watts sera là aussi, Robert Watts.
D'accord.
Donc tous ces gens-là seront disponibles le 28 et 29 mars au Kiwani, une fois de plus en France à Neuville. Donc voilà pour les proches événements, sachant qu'il y a des petits événements qui vont arriver aussi courant mars. À savoir, on a rarement l'occasion de la rencontrer, c'est ni plus ni moins que Luminar Undali, qui sera disponible à Paris pour des dédicaces aussi, Maria Oyaya, comme on dit, Oyaya, c'est ça, je crois?
Oui.
Oui, c'est ça. Qui sera disponible chez Toy Star. Il y a un petit garçon derrière qui fait Oyaya, Oyaya. Qui sera en dédicace chez Toy Star le dimanche 15 mars aussi. Et là, dans ma chronique de début mars, je vous apporterai un peu plus d'éléments concernant cet événement-là.
Parfait.
Donc voilà pour les prochains événements qui vont arriver dans l'univers Star Wars, proche de chez nous et proche dans le mois de février.
Excellent. Ben, merci beaucoup, Raphaël. Dans mon cas, je vais rajouter seulement un petit truc événementiel. C'est que le 23 février prochain, c'est le 10e anniversaire de Sitclan.net. Donc, on fait une petite sortie à Montréal. Donc, pour ceux qui sont intéressés à participer, allez sur le forum de Sitclan, vous inscrire. On va probablement aller faire justement du bowling, peut-être du laser
prenez
tag.
Prenez votre billet d'avion.
Exactement.
Et la boule de billard, et la boule Dark Vador.
Mais il va probablement y avoir quelque chose en France, peut-être pas à la date même de l'anniversaire, comme d'autres l'événement va être le dimanche 21. Mais en France, je sais qu'il y a quelque chose qui s'organise aussi. Donc, si ça vous intéresse... à fêter le 10e anniversaire de Sitclan.net, donc allez sur les forums pour voir ce qui se prépare pour cet événement. Donc sur ce, on va aller avec Henri et puis qu'est-ce qui s'est passé du côté des romans de la littérature. Donc Henri?
Ouais, ben je suis là, donc je pense que ça va être plus rapide que les autres. Parce que bon, y a certains trucs, mais je pense que c'est moins long à raconter. Donc, on va commencer tout de suite par la couverture de Death Troopers, qui a été révélée le 26 janvier dernier, qui est le roman d'horreur écrit par Joe Schreiber. Donc, on ne connaît pas encore le synopsis. Donc, mais la couverture, comme Dani ne l'a pas pour la mettre sur la caméra, donc elle représente le casque d'un Stormtrooper accroché par des pinces. Donc ça rappelle un peu Saw. Il a perdu il reste plus que la tête, quoi, en gros. Donc on se demande bien de quoi ça va pouvoir raconter. Et pour l'instant, Sourostoni ne révèle rien sur l'histoire. Donc on attend plus de plus d'infos que je ne manquerai pas de faire diffuser.
Est-ce qu'elle a mis à jour son blog par rapport aux dernières infos, peut-être?
J'ai pas vu, je crois pas, non.
D'accord.
J'ai pas, parce que je vérifie tous les 4 matins le forum où elle répond aux questions et elle annonce un peu les nouveautés, tout ça. Là, elle a pas parlé plus. Elle a récemment eu, par contre, le premier jet le premier jet du roman. Donc, je sais pas si elle en a parlé, faudrait que je retourne voir. Donc, au pire, j'en parlerai à la prochaine émission.
C'est bon.
Ensuite, on va passer par Cross Current, qui est le roman écrit par Paul Kemp, qui mettra en œuvre Jalen Kor, un ancien protégé de Cal Katarn. Donc en fait, l'auteur a récemment mis sur Internet un extrait de ce roman. Donc je vais lire ce morceau traduit par Sid Clamp, parce que je ne l'ai pas fait pour Camille Webb. Donc voilà, je vais essayer de prendre une voix un peu théâtrale.
Attention. Foirer,
je sens que ça va foirer de toute façon.
T'as dû taper un coup de bâton là. Non. Allez, Leroy! Alors, écoute! On est chaud, là!
Ah non, c'est pas, ça va pas le faire, ça. Je me souviens encore de l'autre jour, hein.
Ah oui, c'est vrai, on a réussi à lui faire enlever des côtes tellement il riait. C'est reparti.
Non, c'est de ta faute, ça.
Raphaël, tu peux pas te calmer un peu, là? Je sens que tu l'équilibres. D'accord, Raphaël, bon, là, il nous a quitté.
Ouais, c'est ça.
Il y a plus que toi qui rigole, là, Louis. Bon. Donc, l'extrait est le suivant. Il accéléra son mouvement autour de la planète et dépassa sa vitesse de rotation à la recherche de la lumière du jour, jusqu'à ce qu'il voit le système stellaire poindre à l'horizon. « Positionne-nous en géostationnaire, R6 », dit-il. Le droïde s'exécuta. Jaden se pencha pour regarder à travers le hublot du cockpit, tandis que le jour se levait sur la planète, dans son mouvement rotatif. La lumière emplit son cockpit et révéla graduellement la surface de la planète, un amas de nuages qui flottait au-dessus de déserts rouges, orangés et fauves, d'un océan bleu écumeux et de la crête d'une chaîne de montagnes qui s'étalait sur toute la longueur du continent. Pour Jaden, c'était comme regarder une œuvre d'art extraordinaire, lui être lentement dévoilée. Une sculpture de terre et d'eau, merveilleuse dans son mouvement circulaire, solitaire, au milieu de la vacuité de l'espace. Il tâchait toujours d'avoir une vue de haut de l'aube de la planète où il allait poser le pied. Il n'était pas sûr de savoir pourquoi. Peut-être souhaitait-il avoir le meilleur point de vue sur une planète avant d'enfouler le sol. Il se souvint désagréablement d'un point du jour de Corellia qu'il avait vu à bord de Center Point pendant que son commando parcourait le dédale de métal de ses couloirs. Il refoula le souvenir rapidement, peiné de constater que ses péripéties sur Center Point aient pu même polluer cette habitude, un des seuls petits plaisirs qu'il ait toujours apprécié.
Ça confirme que Jaden Kor va être un mâle et non une femme, un homme plutôt qu'une femme, parce que dans le jeu, je pense que c'est Jedi Academy. Tu pouvais choisir entre jouer un homme ou une femme. Donc le roman confirme que c'est un homme.
Oui. Oui, par contre, enfin, je change, c'est à peu près le même sujet, mais je change. Par exemple, j'avais lu ce Mass Effect, le jeu vidéo. Par contre, on avait le droit aussi de choisir. Par contre, Drew Karpyshyn, qui a écrit aussi les romans d'Argwen, a choisi justement de pas faire figurer le personnage principal du jeu Mass Effect dans ses romans, parce que justement pour pas créer une
discontinuité,
un sexe défini en fait.
D'accord.
Alors qu'apparemment ils le font, pour Star Wars, ils doivent avoir plus de liberté, ils doivent se dire ça c'est un homme, ça c'est une femme.
Ok.
Donc voilà. C'est une petite note supplémentaire. Ensuite, le 3 février dernier, le site officiel a mis en ligne un article sur le troisième roman, Rebel Force 3, c'est Renegade, c'est la nouvelle série pour enfants qui est publiée par Scholastic. Alors, le petit résumé, c'est l'assassin mortel X-7 a infiltré l'Alliance Rebelle. entraîné par le commandant sans merci Rezi Soresh, X7 est le meilleur dans ce qu'il fait. Il ne ressent rien, mais voit tout. Il est désormais à la recherche du prix ultime, Luke Skywalker, le pilote qui a détruit l'étoile noire. L'apparent gamin de Tatooine prouve avoir plus de ressources et plus difficile à l'allumer que le pensait X7. Entouré d'amis et d'alliés, et avec une connexion à la force augmentant chaque jour, Luke semble imperméable à toutes les tactiques habituelles. Mais X7 n'en a pas encore fini avec lui. Cette fois-ci, il sait comment tuer Luke. Il va détruire la confiance qui tient l'Alliance ensemble et construira la trahison ultime. Le roman est prévu pour le mai prochain. Ensuite, on va passer, ça va être un petit peu plus long, ça date justement d'hier. C'est la révélation 1 du titre de Dark Ben 3 et de 2, le résumé du quatrième de couverture du second Fate of the Jedi. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé par le premier tome avec, parce que ça révèle quelques détails. Ouais, voilà. Donc, le titre de Dark Ben 3, ça sera Dynasty of Evil. Donc, la dynastie du mal. On ne connaît pas encore l'histoire, donc on retrouvera sûrement Dark Ben et son apprenti Zana.
Ben, j'imagine que c'est la fondation vraiment du début de l'ordre Sith jusqu'à Palpatine, dans le fond, qui est cette dynastie spécifique-là avec un seul maître d'apprenti.
De la règle des deux.
Ouais, c'est ça, exactement. Oui.
C'est la refonte, de l'ordre Sith de façon générale, puisque maintenant il n'y aura plus que deux Sith jusqu'à Palpatine. Quoi. Mm-hmm. Et encore même jusqu'à Dooku, parce que là où j'ai halluciné, c'est que en lisant The Clone Wars Adventures, ils considéraient Asajj Ventress comme une Sith. Alors là, nouveau.
Ça brise un peu le moule, mais quand même, on voit que dans les BD par la suite, ça arrive plusieurs fois, même dans les romans, en arrière-plan, qu'il y a plus qu'un seul site, donc...
Ouais, mais pas sur cette période. Mm-hmm. Parce que c'est l'armée des Jedi noirs de Dooku à l'origine.
Ok.
Il est pas censé y avoir de site dedans, c'est que des Jedi noirs. Mm-hmm.
Et donc, le roman, le troisième Dark Ben, sortira en hiver, en grand format, comme les deux précédents. Et donc ensuite, le résumé de quatrième de couverture du second Fate of the Jedi, qui s'appelle Omen, qui est écrit par Kitty Golden, qui vient d'arriver dans l'univers Star Wars. Mm-hmm. Donc voilà, je vais vous le dire. Donc ceux qui veulent pas rien découvrir, ils coupent leur micro.
Spoiler.
Comme on faisait à l'époque des spoilers épisode 3.
Ouais.
Parce qu'il y en a qui veulent. Moi, ça me gêne pas trop de lire les extraits de romans, mais bon, j'essaye de pas trop non plus en découvrir. Donc que voilà.
je vais peut-être rajouter un effet sonore ici, là, comme de quoi qu'il y a des spoilers.
Donc voilà, on est prévenu. L'ordre Jedi est en crise. La transformation choquante de feu Jacen Solo en seigneur Sith Darth Sidious a jeté un voile noir sur ceux qui utilisent la force pour le bien. Deux chevaliers Jedi ont succombé sous les attaques d'une inexplicable et dangereuse psychose. Des charges criminelles contre Luke Skywalker l'ont forcé à partir en exil. Et la chef de l'État Natassi Da'ala, soif de pouvoir, exploite un sentiment anti-Jedi pour détruire l'influence de l'ordre au sein de l'Alliance Galactique. Interdit d'intervenir dans les affaires des Jedi, Luke part en mission pour découvrir la vérité derrière la chute de Jacen dans le côté obscur et savoir ce qui transforme les Jedi en délurés. Et pour trouver des réponses, il faudra s'aventurer dans le Cathal Rift et négocier avec une race d'aliens qui peut aussi bien marchander que tuer les étrangers. Malgré cela, Luke n'a pas d'autre choix et pas de temps à perdre, tandis que les événements continuent de s'aggraver sur Coruscant. Atteinte par la même maladie que son frère Valin, Jessila Horn fait face à un sombre destin après sa capture par la police de Da'ala. Et lorsque Leia et Han Solo arrivent à empêcher un autre Jedi de détruire tout sur son passage, même l'actuel grand maître Jedi Kenth Hamner se sent prêt à s'incliner devant Da'ala au détriment de l'ordre Jedi. Mais une plus grande menace approche. Il y a des millénaires, un vaisseau Sith s'est écrasé sur une planète inconnue, technologiquement primitive, laissant les survivants bloqués. Au fil des générations, leur nombre s'est renouvelé, les voies du côté obscur entretenues, et le temps arrivera bientôt lorsque cette tribu perdue des Sith rejoindra les étoiles pour réclamer leur destinée légendaire de maître de la galaxie. Une seule chose se tient sur leur chemin vers la domination, un nom qui leur est murmuré dans la force, Skywalker.
Et ça, j'imagine, et donc, roman... c'est ça, j'imagine que c'est un lien avec la série Legacy de BD, là, j'imagine, ce groupe de Sith-là.
Peut-être. Faudra voir comment ils vont finir par imbriquer les romans avec la série des, parce qu'on ne sait pas grand chose à ce qui se passe avant la bande dessinée Legacy. Louis pourra confirmer. On ne sait pas du tout si Luke est le grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-père de Kay. Donc je pense qu'on va finir par découvrir au fur et à mesure dans les romans.
Et la race qui disait qu'il peut autant te tuer qu'un marchandier, ça doit être les Colicoïdes qu'on voyait dans le roman Millennium Falcon, qui se tient à peu près dans la même période, qui est le roman Millennium Falcon, qui est comme un prequel, là, juste avant la série Fate of the Jedi. Donc faudrait voir si c'est vraiment cette race-là.
Et apparemment, certains, donc, ils auraient déduit qu'en fait, que la maladie qui atteint Jedi aurait été créée par Dala.
Ah, ok.
Donc, faut voir s'il faut comprendre ça ou si les gens ont un peu interprété par rapport au résumé.
C'est un virus qui atteint... Ok, oui, vas-y.
Juste pour dire que le livre sortira en grand format l'été prochain, comme les 9 tomes que comprendra la série Fate of the Jedi. T'avais un petit truc à dire, Dani?
Je disais, est-ce que ça va être un virus qui attaque les midi-chloridiens? si c'est ciblé aux Jedi. Ouais.
Il serait capable de les ressortir.
Ouais, je sais pas trop, là.
Ah non, donc le prochain Fleuve Noir qui sortira le 26 février prochain, qui est le second Darkbane, qui porte le nom de Règle des Deux. Et la dernière sortie US qui date d'il y a 2 semaines, je pense, je vais vérifier ça, qui date du 27 janvier, qui est le troisième numéro de la trilogie Coruscant Knights.
Ok.
Donc je le remonte à la caméra pour les curieux.
Là, on voit Darth Vader contre, je me souviens même plus du nom du personnage principal, c'est pas Pavan.
Jax Pavan.
Ouais, Pavan, c'est ça.
Jax Pavan. Et donc voilà, je pense qu'on en fera une petite critique pour la prochaine émission, je pense, peut-être.
Peut-être pas. je l'ai pas commenté encore.
Ouais, moi non plus, j'ai encore pas mal de trucs, donc. Mais bon, j'espère que dans un mois. Et donc, je vais finir j'ai quelques petits trucs. Il y a encore quelques questions-réponses auxquelles Sourostoni a répondu, donc je vais faire une petite sélection. Quelqu'un demandait s'il était possible que nous ayons un jour un livre concernant le journal des Wills. Elle a dit que c'était impossible, donc ça va être une des parties comme le Darth Plagueis ou la race de Yoda, ça va être des morceaux qu'on verra jamais dans l'UE, qui doivent être trop privés par Lucas. Ensuite, est-ce qu'on peut s'attendre à des news concernant les livres qui sortiront à l'automne 2011 très bientôt? Il y aura-t-il un grand format pour la fin 2011 et dans quelle époque l'histoire se déroulera? Ou est-ce qu'il y aura d'autres grands formats en 2011 en dehors du 9e Fate of the Jedi? Donc, Sourostoni a répondu que les choses changent tellement souvent que, évidemment, que tout ce qu'elle posterait aussitôt pourrait très bien changer dans 2 semaines plus tard et revenir à la normale encore 2 semaines après.
C'est quand même loin, là. Fin 2011, là. Je sais que le contrat finit en 2013, mais...
Les fans sont tellement curieux de ce qui se passe. Dès qu'ils sont un peu rassasiés, ils veulent savoir ce qu'il y aura après. Donc, d'un côté, on a envie d'avoir tout de suite les infos, mais évidemment, maintenant qu'ils ont révélé un peu ce qu'on avait jusqu'en 2011, les gens veulent savoir ce qu'on va voir après. Donc, ensuite, petite question d'un fan de l'acteur. Il y en a quelqu'un qui demandait est-ce que Christian Bale avait servi de modèle pour Zek sur la couverture de Blood Oath. Et Sourostoni précise qu'en fait tous les modèles présents sur les couvertures viennent d'une agence.
D'accord.
Sûrement de mannequins. Donc voilà.
Donc on aurait Batman sur une couverture Star Wars. Christian Bale.
En fait non, c'est des modèles choisis par Del Rey en fait.
Non, c'est ça. Non, c'est parce que il demandait si c'était pas Christian Bale. C'est lui qui joue Batman.
Souvent on voit qu'il est comme ça, qu'il s'inspire un peu, même dans les bandes dessinées. Louis se souvient de Union, il y a le prêtre qui marie Mara Jade, qui ressemble un peu à Bruce Willis. Il y a un des rocks, ils sont un peu inspirés de Tommy Lee Jones. Donc, je pense que de temps en temps, ils doivent s'amuser.
Il y avait Shizor qui était sur la couverture de, Shadows of the Empire, les ombres de l'Empire, qui ressemblait à Michael Ironside. C'est un acteur plus âgé maintenant, là, mais il faisait Jester dans Top Gun.
Ouais. Et il joue aussi Starship Troopers.
Ah oui, en effet, ouais.
Ensuite, les manuscrits qu'elle a récemment reçus, elle a eu Omen, dont je viens vous de donner le résumé, plus, et Death Troopers. Donc, on en saura sûrement plus sur ce qu'elle en pense. Ensuite, parce que certains ont fait la remarque que Luke était trop jeune sur la couverture de Outcast, mais Sue précise qu'évidemment, ils l'ont essayé de le vieillir un peu, avec les couleurs un peu trop brillantes, ils trouvaient que ça aurait gêné un peu la couverture. Donc on revient encore sur les modèles qu'ils utilisent sur les couvertures. Ils n'ont pas le droit de les interviewer, mais ils ont le droit de les choisir. Donc apparemment ils doivent pas les rencontrer, ils doivent avoir un portfolio, ils doivent se dire telle personne serait bien pour tel personnage. Mm-hmm. Donc ensuite, petite question, allez savoir pourquoi quelqu'un l'a demandé. Sur la couverture de Blood Oath, il y en a quelqu'un qui demandait laquelle des sœurs Zell était Taryn et laquelle était Trista, parce qu'il y en a une qui est en devant et une qui est derrière. Évidemment, sur Rostoni, il n'en a aucune idée.
C'est pas utile, là, vraiment.
Ouais. Et bon, c'est toujours amusant de voir un peu les questions que les fans posent un peu à la pauvre sœur Rostoni. Est-ce que Outcast et Omen auront des dermatismes personnés? Apparemment, pour l'instant, elle ne le sait pas. Bon. Donc, on en saura un peu plus. Donc, parce que ça dépend de ceux qui veulent voir, pour savoir quels sont les personnages qui seront présents. Mm-hmm. Est-ce que nous verrons de nouveaux pouvoirs de la Force dans la nouvelle série? Parce que, comme justement, on raconte que Luke va aller chercher les origines de la chute de Jason Solo, comme il a appris des nouveaux pouvoirs. Mm-hmm. Et Sue précise que c'est toujours une possibilité. Évidemment, les gens sont un peu inquiets concernant les sorties un peu plus grand format pour les romans Clone Wars. Donc évidemment, la question qui revient souvent, est-ce que les Fate of the Jedi seront en poche normaux ou en poche plus comme la format Wild Space? Et après, Sue Rostoni précise que le format sera un poche normal.
D'accord.
D'ailleurs, on n'a toujours aucune nouvelle de la ressortie de la novélisation de The Clone Wars par Karen Travis. Donc, on ne sait toujours pas s'ils vont ressortir ça en format Clone Wars comme Wild Space ou en format poche normale.
D'accord.
Donc, Del Rey n'a pas encore décidé. Ensuite, deux petites indications sur les personnages qu'on retrouvera dans Outcast et Omen. Donc, bon, il n'y a pas grande surprise. Ça sera Han, Leia, Luke, Ben, Jenna, les droïdes, Dala et Jag. Mm-hmm. Quelques nouveaux personnages, évidemment, toujours mystérieuses, on n'en sait pas plus, donc il n'y a pas aucune grande surprise et aucun spoiler. Et ensuite, dernière petite question intéressante, est-ce qu'on en saura plus bientôt sur les mystères de Vergère, en dehors de ce qu'a dit Lumaya, Lumaya et le One Sith qu'on voit dans Legacy à ce propos? Apparemment, on en saura plus, mais les sources de Sue Rostoni lui précisent de pas en dire plus pour le moment. Mm-hmm. Donc, à peu près ça, voilà. Je pense que j'en ai fini pour le moment.
Donc, on voulait aussi parler des romans Wild Space et Luke Skywalker and the Shadow of Mindor. On va y aller pendant qu'on est dans la chronique.
Donc, tu commences?
Ben oui, je peux y aller pour Wild Space. Bon, pour ceux qui n'ont aucune idée c'est quoi, c'est un roman en format poche moyen, je dirais en grandeur, on l'a montré dans les dernières émissions, c'est une histoire qui se déroule parallèlement à l'histoire, à la série Clone Wars, à la télévision. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans ce roman-là, c'est qu'on voit justement, Henry le montre à la caméra. Oui. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a des points de vue différents des personnages comme de Padmé, Palpatine, même qu'à certaines occasions, on voit Palpatine mettre et enlever sa bure de Sith pour faire une communication holographique. Donc, supposons qu'il va parler à Dooku, on le voit, il s'en va à sa garde-robe, il met sa bure de Sith, fait sa communication, et puis il l'enlève. C'est vraiment un point de vue qu'on voyait toujours dans les films, un côté ou l'autre, on voyait vraiment jamais la transition. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on voit dans la tête de Palpatine, quand il parle à Yoda, il lui dit « Pratiquement, je vais te péter la gueule, mon petit... éventuellement. » On voit vraiment qu'est-ce qui se dit dans sa tête pendant qu'il y a une conversation sérieuse avec lui. C'est vraiment...
En tout,
Vas-y.
En tout cas, j'ai vu qu'ils avaient un truc qui ne cachait pas du tout dans les deux romans Clone Wars, que ce soit la novélisation de Karen Travis ou Walt Space, et qu'on tout le monde sait que Sidious est Palpatine. Mm-hmm. Parce qu'avant, ils le cachaient, mais là, maintenant, déjà dans la novélisation de Clone Wars par Travis, il le révélait, et là, il le révèle aussi. Mm-hmm.
Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que l'histoire débute immédiatement après la bataille de Geonosis, alors qu'ils sont en train de récupérer les clones qui sont morts lors de la bataille. Puis on voit à ce point-là, Yoda a énormément de poids sur ses épaules. Il est pas déprimé, mais il sent qu'il y a beaucoup de pression. Lord Jedi repose sur ses épaules, donc il y a vraiment beaucoup de pression. On voit aussi la relation entre Padmé et Anakin. Pourquoi qu'ils voulaient garder ça secret? Et aussi le fait que Obi-Wan et Yoda, ils sont au courant en réalité. Ils savent qu'il y a une relation entre les deux. Ben, ils savent pas assurément, mais ils ont une bonne intuition là. Ils savent que, je veux dire, c'est assez évident pour eux autres. Même que Obi-Wan, à un moment, va confronter Padmé par rapport à la relation. Obi-Wan arrive à Padmé puis dit, je veux pas que tu t'attaches avec Anakin, etc. Et il lui dit carrément. Donc, c'est intéressant de voir ce côté-là de l'histoire qui n'a jamais été approché par personne.
Les Jedi devaient quand même être la capacité de se rendre compte de tous ces éléments-là.
Ben, c'est ça. Même aussi...
Ben, toujours surpris, moi.
OK. Puis, il y a Yoda aussi. Il y a Yoda aussi qui n'aime pas que Anakin ait une relation aussi proche avec Palpatine, comme si il voit encore qu'il y a un attachement de Palpatine et Anakin qui se fait... Puis les Jedi ne doivent pas avoir d'attachement, donc Yoda n'aime pas ça qu'Anakin soit si près de Palpatine, qu'il soit pratiquement comme un ami. Là.
Faut dire que Yoda a dû regarder les épisodes 4, 5, 6, c'est pour ça aussi.
qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Le film Clone War qui a été au cinéma, donc qui regroupait 4 épisodes de la série télé, semble se dérouler entre le mariage de Anakin et Padmé, et la scène de déploiement des troupes à la fin de Attack of the Clones, c'est la scène où on voit toutes les troupes sur le plancher, on voit les vaisseaux décoller à la fin du film. Donc, entre la scène dans le film Attack of the Clones, entre la scène du mariage et la scène des vaisseaux qui décollent, il s'est passé des choses dans la série Clone Wars. Donc,
c'est n'importe quoi, hein.
Mais bon.
Alors là, c'est vraiment bravo. Parce que l'identité,
faut plus s'en soucier.
Je sais pas comment il va faire, mais il y a tout un nombre de comics qu'on croyait qu'ils allaient compresser, d'ailleurs, l'identité. Il avait dit qu'ils allaient compresser dans le mois 1 de la guerre des clones. Uh-huh. Et là, tout est à nouveau remis en question. C'est n'importe quoi. Mm-hmm. C'est du foutage de gueule. c'est de l'irrespect complet pour tous les auteurs des comics et romans.
D'ailleurs, c'est ça. D'ailleurs, en plus, je pense que Anakin devient chevalier Jedi encore plus tôt dans ce roman-là que prévu. Donc, le film est pratiquement Attack of the Clones est même pas terminé. Quand on voit les vaisseaux décoller à la fin avec, tu vois Bail Organa et plusieurs sénateurs sur une plateforme avec Palpatine, Anakin à ce moment-là serait déjà Jedi. Donc, c'est complètement fou, là.
C'est même presque incohérent avec la novélisation de Karen Travis, parce qu'elle mentionnait déjà Jabim, donc...
Il y a plein de confusion. Dans ce roman-là aussi, Obi-Wan rencontre encore Dexter Jester, qui lui mentionne que Botawi, la planète Botawi, où est-ce que la planète de la race des Botans, va être attaquée par Grievous. Donc c'est à ce moment-là que Obi-Wan est victime d'un attentat à la bombe sur un bâtiment de Coruscant, un peu comme qu'est-ce qui est arrivé à New York le 11 septembre. Puis l'explosion a lieu non loin de la résidence de Padmé. Donc, c'est une scène qui a vraiment une explosion sur un gratte-ciel. Obi-Wan est très blessé. Et c'est à ce moment-là que Yoda et les autres maîtres Jedi décident de donner à Anakin le vaisseau, le Resolute, qu'on voit dans la série télé. Il dit, on n'a pas le choix, Obi-Wan est blessé, donc c'est Anakin qui va prendre le commandement du Resolute et qui va aller défendre Botawi, qui est en fait l'épisode Duel of the Droids, non pas Duel, mais Downfall of a Droid, où est-ce qu'on voit le vaisseau de Grievous arriver pour attaquer Botawi, puis Anakin a planté des ATTE sur les astéroïdes. pour l'attaquer par derrière. Donc cette scène-là est pas inclue dans le roman, mais Obi-Wan fait un rêve sur cette bataille-là, ce qui nous fait le lien.
C'est fou, quoi.
Et en plus, il y a certaines communications dans Downfall of a Droid. On voit que Obi-Wan il communique avec Anakin dans la série télé. Il dit comment ça t'as perdu R2? Il y a des informations importantes dessus. Ben cette scène-là, on voit l'autre côté de la médaille dans le roman, quand c'est Obi-Wan qui va communiquer avec Anakin et qui apprend cette nouvelle-là. Donc il dit va retrouver R2 au plus vite. Donc c'est vraiment parallèle, ça se passe en parallèle avec Downfall of a Droid et Duel of the Droid. Donc ce côté-là est intéressant.
Bah, de toute façon, là, il est de plus en plus clair maintenant avec cette information que tu viens de donner, mm-hmm. qu'il y aura réellement deux continuités, parce que c'est pas possible autrement. Mm-hmm. C'est pas possible, surtout qu'ils vont faire 100 épisodes de The Clone Wars. Non. Mm-hmm. C'est-à-dire, il y aura la continuité roman comics et la continuité dessin animé, parce que je vois pas comment c'est gérable autrement. Okay. Sachant que la continuité, à mon avis, roman et comics, deviendra non officielle.
L'autre chose qui est d'intéressant, Bail Organa, il sait pas c'est quoi vraiment un site, mais Organa reçoit une information d'un de ses informateurs. On n'a jamais su c'est qui. Oui, on l'a su dans le roman. Mais il reçoit une information comme de quoi que les Sith, ils veulent tuer Obi-Wan et les Jedi. Donc à ce point-là dans l'histoire, on n'avait aucune idée. Ben tu sais, nous on le savait par l'univers étendu, mais je veux dire dans l'histoire à ce moment-là, Bail Organa avait aucune idée c'était quoi. Et puis Bail, étant donné qu'il sait pas, ben Obi-Wan lui explique en gros. Au début, je veux dire de ce roman-là, la relation de confiance entre Bail puis Obi-Wan est inexistante. Quand même, Bail c'est un politicien, puis Obi-Wan il déteste les politiciens. Donc au fur et à mesure qu'ils vont justement ils partent en voyage ensemble pour aller découvrir une planète qui renferme un secret supposément, la planète Zygoda. Et puis au fur et à mesure du voyage, ils apprennent à se connaître. Et puis c'est pour ça que dans A New Hope, je dirais quand on voit dans l'hologramme de Léa où est-ce que elle dit vous avez combattu dans la guerre des clones avec mon père, etc. Quand Léa mentionne ça, c'est là qu'on voit un peu la relation qui s'est développée, puis comment que Obi-Wan puis Bail Organa étaient amis à la fin de cet épisode-là de la guerre des clones.
Même lors de l'épisode 3, parce qu'il parle quand même avec Yoda et tout ça, il lui donne Leia, mm-hmm. donc on sent déjà qu'il a une bonne relation avec les Jedi.
C'est ça, ce qui n'était pas le cas au début de la guerre des clones. Une chose que j'ai vraiment trouvé intéressante plus ou moins, c'est quand Obi-Wan il se dirige vers la planète Zygoda justement. Plus que Obi-Wan approche de la planète, qui est une planète du côté obscur vraiment, plus que le Darkseid essaie d'envahir Obi-Wan et puis il devient comme paranoïaque, mais il est plus capable de se contrôler, il peut même plus dormir parce qu'il commence à faire des hallucinations. Et puis, c'est vraiment très similaire à l'anneau que Frodo transporte dans Le Seigneur des Anneaux. Plus qu'il s'approche de la planète, plus que le poids du côté obscur sur ses épaules est pesant, il a de la misère à vraiment s'en sortir. Donc, puis Bail l'aide un peu comme Samwise aide Frodo pour se rendre vraiment à la destination finale qui est un temple Sith. Donc, c'est vraiment... je dirais que c'est la deuxième partie du roman, je l'ai pas vraiment aimé. C'était plutôt linéaire, c'était un peu long, mais bon, c'était des bonnes conversations que Bail et Obi-Wan avaient ensemble, je dirais.
Moi, j'ai bien aimé la seconde partie. Je trouvais que c'était un peu justement que la partie où Bail Organa doit même carrément porter Obi-Wan pour qui doit le forcer, lui faire mal et tout ça. Je trouvais qu'il y a une bonne psychologie. Entre les personnages.
Oui, c'est ça, je disais, les conversations sont intéressantes, les interactions, mais le côté histoire en tant que tel, j'aimais mieux la partie où est-ce qu'on voyait vraiment plus un parallèle avec la série télé. J'aimais mieux ce côté-là. Une chose qui est intéressante dans ce roman-là, c'est qu'il y a aussi la mention que l'attachement ne fait pas qu'affaiblir les Jedi, mais peut aussi le renforcer. Donc, on dit toujours que les Jedi, l'attachement, c'est pas bon pour eux autres, tandis que dans ce roman-là, il y a la mention que l'attachement ne fait pas seulement qu'affaiblir, mais il peut renforcer aussi. selon la personne, là. Donc, c'est un côté-là qui est intéressant aussi, là. Donc, si ça s'applique à Anakin à un certain point aussi, là. Il y a Bail qui utilise un juron mandalorien. Il dit Fear Feck, qui est vraiment un juron mandalorien. Donc, pourquoi il a sorti cette expression-là comme ça? C'est comme si... comme nous on utilise certains mots qui sont des jurons dans une autre langue, donc c'est similaire. Ouais, dans votre cas, moi je pourrais dire fuck ou oh putain, tu sais comme. Donc moi je dirais que la note est moyenne, je dirais 3.5 sur 5 ou 4. Mais je veux dire Karen Miller, c'est une très bonne entrée en la matière pour l'univers Star Wars, donc je veux dire, j'ai été même surpris. Elle était dans des raccoins reliés au film que jamais personne n'avait été. Et puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Tous ces petits liens-là qu'on apprenait plus sur les personnages, comme la relation entre Padmé et Anakin, qui était beaucoup mieux. D'ailleurs, pour les pervers, c'est dans ce roman-là qu'il y a la scène qu'on a les deux au lit. Là. D'ailleurs, donc...
Je vois pas pourquoi on devrait être pervers, hein?
Donc,
on a le droit d'aimer ça, tout simplement.
Ben oui. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est hors de l'ordinaire pour Star Wars. C'est plus ça, là. Je dirais. C'est vrai que
bah, comme on a dit, hein, après le roman d'horreur, voilà le roman de cul, hein.
Ouais.
Donc, je vois pas qu'est-ce qui change, hein.
Enfin, on verra le roman d'horreur de quoi il va avoir l'air. On n'est pas rendu là encore, mais.
Sans doute de pas grand-chose.
Ouais. Enfin. Donc, mais.
On peut être surpris, hein. Mm-hmm.
Ouais, c'est pas faux.
Donc,
j'espère qu'on sera surpris, que ce sera quelque chose qui renouvellera un peu le genre de Star Wars.
On va faire quelque chose.
Surtout qu'encore plus sadomaso que les vues en Vong.
C'est vrai, j'avais oublié ça. Donc, ce qui, dans le fond, on espère justement que le Death Trooper ressemble un peu à Shadow of Mindur. Ça va être l'enchaînement pour le prochain roman. Luke Skywalker and the Shadow of Mindur. Si tu peux commencer peut-être, Henry, pour en parler.
Oui, donc, bon, j'ai toujours aimé Stover, j'avais adoré la novélisation de l'épisode 3, parce que c'était je sais pas pourquoi, j'ai eu une grosse claque en lisant la novélisation de l'épisode 3 par lui. Donc, j'ai lu Shadow of the Mindor, donc c'est un très très bon livre, évidemment, comme nous réserve à chaque fois Stover. Mm-hmm. Mais par contre, j'ai eu beaucoup plus de mal à le lire que j'ai pu, qu'en lisant Wild Space. Wild Space, j'ai vraiment pas eu de mal à le lire, je l'ai vraiment dévoré, mm-hmm. Pourtant, c'est plutôt un roman pour adultes. Mais j'ai vu que j'ai beaucoup plus de mal à avec Luke Skywalker et Shadow of Mindor. Donc, j'ai peur que c'est un peu atteint ma lecture. Mais sinon, parce que j'ai trouvé que toute la première partie, jusqu'au, je sais pas, il y a combien, j'ai le truc, il y a peu plus de 300 pages. Ouais. Ouais, j'ai eu l'impression sur les 150 pages. Bon, il se passait beaucoup de choses. Il y avait de la psychologie, tout ça, mais j'avais l'impression qu'on avait trois scènes différentes. Ça se passait. Il y avait un truc sur la planète, il y avait un truc avec Shadow Spawn, mm-hmm. et il y avait un truc avec Leia. Il y avait pas de grande envergure de scènes différentes. Il y avait trois scènes différentes, et ça faisait avec deux. Juste ces trois scènes-là, on avait 200 pages.
C'est ça, c'était vraiment des. T'avais trois ou quatre lignes directrices. T'avais Lando dans l'espace, t'avais Han Solo et Leia au sol avec les Mindoris, t'avais Luke et Shadow Spawn et Nick Rose 2 ensemble. C'était vraiment. Ben, c'est un livre qui est lourd, très mêlant, qui amène une nouvelle approche à la Force encore une fois. C'est pas un livre facile à lire, vraiment pas. C'est un très bon livre, mais il est relativement complexe. Shadow Spawn, c'est Lord Cronal qui s'appelle, qui est un une des mains de l'empereur, comme un peu Mara Jade l'était. Puis il veut que Luke Skywalker devienne l'empereur et qu'il prenne l'héritage qui revenait à son père Anakin. Donc lui, son but, c'est de réussir à ce que Luke devienne empereur, ok, dans ce roman-là. Donc il va tout faire pour que ceci arrive. Mais il y a aussi le concept qu'il est capable de transférer son esprit en utilisant un côté de la Force qu'il appelle l'obscurité ou the dark, avec un D majuscule, qui peut transférer son esprit un peu comme Palpatine fait pour transférer son corps vers son clone, dans le fond, dans la BD. C'est un peu ce genre-là. Puis c'est très complexe. Dans le fond, le dark, c'est comme l'obscurité, c'est le but. Le but total de l'univers, tout va finir par être noir, tout correspond à la destruction. Puis on essaie de faire un parallèle avec la force, c'est assez complexe, même difficile à expliquer. C'est comme si la force va aider tous ceux qui veulent la destruction, étant donné que l'objectif ultime, c'est la destruction de tout, l'obscurité, le dark. Toute fin, c'est le dark. Donc, toute la force, c'est le dark. Si tu veux la destruction, le dark va t'aider. Comme par exemple, Palpatine voulait la destruction des... ça, c'est une idée que je me donne, là. Toute le dark, c'est comme si le dark aidait ceux qui veulent détruire, qui veulent la destruction. Le dark, Palpatine voulait détruire les Jedi. Le dark l'aurait aidé. Pendant la destruction, une fois que Palpatine a détruit les Jedi, ben là ensuite c'est les Jedi qui veulent détruire Palpatine, donc le Dark aurait aidé par la force les Jedi. Les Yuuzhan Vong, quand sont arrivés, ils auraient été aidés par le Dark parce que les Yuuzhan Vong voulaient la destruction. Aussitôt que les Yuuzhan Vong s'installent, là le mouvement change, c'est rendu le Dark qui aide les rebelles puis le reste de la galaxie qui veulent détruire. Et une zone vague, c'est comme s'il aidait toujours ceux qui veulent détruire. Mais c'est vraiment bizarre comme concept. Mais d'après moi, c'est plus une interprétation de la force et du dark side que un nouveau concept. C'est que lui, Shadowspawn, voyait ça comme ça. Mais bon,
au fait, j'y pense. Je me trompe pas, il se transfère bien son esprit avec le casque.
Ouais, c'est ça, avec un espèce de casque. C'est ça, mais.
Qu'est-ce qu'on voit là?
C'est ça, mais il se sert du dark comme pour transférer. Dans le fond, c'est une espèce de. C'est relié par la force. C'est vraiment difficile à expliquer. C'est comme à chaque fois que Matthew Stover écrit un roman, comme Traitor ou ben. Même Shatterpoint, il s'en va avec des nouveaux concepts de la force. Tu sais?
Oui.
Avec Shatterpoint, c'était trouver la faille, tu regardais une personne dans la faille et tu voyais la faille que tu pouvais exploiter pour éliminer la personne ou éliminer l'objet ou peu importe, trouver la faille. C'est un peu ça le concept du dark aussi, c'est comme si chaque personne voyait la force d'une façon différente. Comme lui, Shadowspawn le voit en obscurité, etc. Mais Luke réussit lui quand même là-dedans à avoir une lueur d'espoir puis de la lumière. Donc, il réussit à voir que c'est pas vraiment du dark, c'est comme, en fait, c'est chaque personne représente une lumière dans le dark, c'est très très complexe. Ceux qui nous écoutent doivent complètement être mélangés, là. Donc, je vous suggère de lire plus que suivre nos explications.
C'est comme ce que je voulais dire, c'est que c'est presque devenu un jeu de créer des nouvelles façons de voir la force maintenant.
Mm-hmm. Il y a aussi des affaires qui sont un peu, on dirait en anglais, creepy, un peu étranges, comme les créatures rocheuses, le melt massif qu'ils appellent. C'est comme des cristaux, comme s'il y avait des âmes dans le cristal de la planète, dans la roche, puis la roche peut se déformer, puis envelopper, devenir liquide, puis envelopper les gens. T'as aussi un peu comme... vas-y.
Non, mais d'ailleurs, je crois, si je me trompe pas, si j'ai bien compris, c'est justement que les armures des troopers noirs sont justement faites de ça, non?
Oui, exactement. Ouais. Si on l'apprend à la fin, tu viens de vendre un punch. C'est que il y a aussi, justement, pour transformer, parce que justement, Lord Shadowspawn, il est très très âgé et il est capable de contrôler toutes les personnes qui, justement, il y a une espèce de processus qu'il appelle le pawning. Autrement dit, il transforme en pion des humains. Il fait comme les opérer au cerveau. Puis il incruste un peu justement le melt massif dans le cerveau qui cristallise comme le cerveau. Il est capable de communiquer avec eux et contrôler toutes les personnes qui ont justement ce cristal-là dans le cerveau. Et puis il est capable de contrôler tout le monde avec une espèce de casque justement qu'on voit. Et justement, ce principe-là de se faire transformer en pion, est assez étrange. Tu sais, ils te font comme, t'es comme justement imbriqué dans le liquide qui se solidifie, donc tu es comme pris dans la roche. Et puis là, tu te fais comme scalper dans le fond. Et puis là, t'es comme, c'est vraiment, c'est quasiment un film d'horreur là, dans le fond. Puis le monde il crie au meurtre. Et puis c'est assez spécial vraiment. On regarde les personnages qu'on voit. Bon, Han, Chewie, puis Han Solo était excellent. J'ai bien aimé pas Han Solo, mais Lando Calrissian là-dedans. Je veux dire, il amenait beaucoup d'humour, à mon avis. Il y a vraiment une scène spécifique, en tout cas, qui était vraiment intéressante.
Ben, j'ai trouvé que toute la première partie, il y avait pas mal d'humour, déjà avec les rogues, déjà, ça, je me suis dit, pour le même moment, je me suis dit, tiens, je suis pas dans un roman de Aaron Alston.
Mm-hmm. Puis un concept qui était intéressant, qu'ils ont introduit dans ce roman-là, c'est tout ce qui est les holo-thrillers ou des, autrement dit, les films holographiques, tu sais, le cinéma dans l'univers Star Wars, c'est que on voit Luke Skywalker, Han Solo, ils ont vu des films sur eux. Autrement dit, la République a fait des films qui expliquent les aventures de Luke Skywalker, les aventures d'Han Solo, etc. Mais c'est fait comme hollywoodien, donc ça représente pas exactement la vérité. Mais on voit que toutes les personnes de la galaxie pense que les films représentent bien qu'est-ce qui s'est vraiment déroulé. Donc, par exemple, dans Luke Skywalker and the Jedi's Revenge, qui est un film créé sur les aventures de Han Solo, Luke et la bande sur justement la trilogie classique, c'est même pas Luke qui tue l'empereur. Tu sais, c'est en tout cas, c'est, mais là, Luke lui trouve ça vraiment, tu sais, il est frustré que les films représentent pas la réalité. T'sais, pis c'est justement Shadowspawn est impliqué là-dedans à donner l'illusion, une fausse illusion de Luke Skywalker, etc. Il y a même un reality show justement que c'est complètement fucké, excusez-moi l'expression, ce livre-là. Il y a une des scènes que le Shadowspawn fait à croire qu'il prend le contrôle d'un de ses pions, il se fait. Donc Luke pense que le pion est Shadowspawn, puis ils sont comme en train de filmer pendant que Luke il pense que c'est réel là, pour faire un film. Donc il fait comme amener Luke à un certain endroit pour qu'il détruise Shadowspawn pour faire un film. Mais là Luke se rend compte que c'est pas vraiment Shadowspawn, que c'est un personnage de Matthew Stover d'un autre roman, Nick Rose 2 qui est là. En tout cas, c'est très très complexe là, mais t'as plusieurs contextes qui sont intéressants dans ce roman-là. Justement, il y a deux personnages que Matthew Stover ramène de ses livres. C'est Shatterpoint, je pense. C'est Nick Rose 2 puis Cass Vanor ou Vastor.
Karn Vastor.
Donc, c'est deux personnages qui sont issus de ces autres romans. Mais, je veux dire, c'est vraiment... c'est très, très complexe. T'as vraiment le contexte des films. T'as Shadowspawn qui veut que Luke devienne l'empereur et puis ensuite va transférer son esprit dans Luke pour que lui devienne l'empereur. T'as Léa qui est embarquée là-dedans. Il fait un peu comme aussi Darth Vader. Si je peux pas avoir Luke Skywalker, je vais avoir Léa. T'sais? Donc c'est vraiment... c'est extrêmement complexe. Les batailles spatiales sont excellentes au début du film. Il y a comme un canon gravitationnel qui envoie comme une vague dans l'espace, qui détruit tout sur son passage. Puis je veux dire, tous les vaisseaux, ils passent, et vraiment, même Luke réussit à atterrir un vaisseau Mon Calamari, un peu comme Anakin dans Revenge of the Sith. Vraiment, le même genre d'atterrissage. C'est assez spécial comme, faudrait vraiment que je le relise parce que c'est un livre qui se lit seul. Je veux dire, t'as pas besoin d'avoir connu l'univers étendu vraiment pour le lire. C'est certain que, bon, t'as des clins d'œil comme t'as Rogue Squadron qui est là, t'as des clins d'œil à ses anciens personnages, mais dans le fond, ça se passe 6 mois après Return of the Jedi, je crois.
Non, c'est le début, parce qu'après, justement, on l'a dit, ça se passe 5 ans après. Ah bah oui, je suis bête. Un an après, donc ça fait un an après le Retour de Jedi.
Ok, donc...
Enfin, attends, c'est bien.
Il me semble que j'avais marqué 6 mois, moi.
Je suis perdu dans les années, c'est en 0 pour A New Hope, c'est bien en 3 pour l'Empire Contre-Attaque, et en 4 pour Retour de Jedi.
Faudrait revoir, enfin.
Parce que je sais que ça se passe en l'an 5 et quelques, sur Roston, il l'a précisé.
Ok. Enfin, c'est avant Tron, là. Donc, oui. Moi, j'ai noté 6 mois après Return of the Jedi, donc, enfin. Peu pas importe. Mais bon, moi, la chose que j'ai retenue de ce roman-là, qui pourrait être intéressant à considérer, c'est que, tu sais, on parle de, justement, dans Clone Wars, les problèmes de continuité, etc., etc. Si on considérait par hasard que qu'est-ce qu'on voit dans la série télé, par exemple, serait des holofilms, que justement, qui auraient été faits par la République ou autre. D'ailleurs, tout le temps, les petits clips au début, là, qui est comme fait une narration, qui est comme un peu un petit film de la Deuxième Guerre mondiale qui explique les nouvelles. Si ça serait pas comme des films, et puis ça pourrait être une solution, ou le retcon, la correction de la continuité, ça serait une solution pour dire que ouais, finalement la chronologie elle fit pas tout à fait, finalement tel personnage est pas au bon endroit au bon moment, on pourrait dire dans l'univers, ben c'était seulement des films qui représentaient qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Ben là, ça s'en viendrait compliqué, mais ça serait une solution pour vraiment régler tous les problèmes. Donc, qu'est-ce qui est pas correct dans la continuité? On a juste à considérer que c'est un film. Matthew Stover a bien fait d'introduire le concept que t'as des holofilms qui représentent pas la réalité. Donc, c'est peut-être la solution pour les problèmes de continuité. Tout qu'est-ce qui n'est pas assujetti à la continuité actuelle pourrait être considéré justement un film. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, des films, même ici au cinéma, qui représente la Deuxième Guerre, mais c'est pas exact. C'est une dramatisation d'un événement. Donc, ça pourrait être un peu le même principe. C'est ça que j'ai dit. Hey, ça serait une bonne idée d'appliquer ça pour régler les problèmes de continuité.
Oui. Alors, il y aura toujours des problèmes de toute façon. Donc.
Ouais, c'est ça. Autre chose intéressante, il y avait quelques quotes, là, des lignes de texte que j'ai trouvé intéressantes. À la fin, la force, elle parle à Luke. Puis elle lui dit, tu es plus grand que les Jedi d'autrefois, car contrairement aux Jedi de l'époque, Jedi Luke Skywalker, tu n'as pas peur de l'obscurité, en parlant du dark. Autrement dit, c'est comme la force qui dit à Luke, c'est toi le plus grand Jedi, tu sais. C'est vraiment intéressant. Puis t'as aussi, à la fin, Luke, il discute avec un producteur de cinéma. sur l'aventure justement qui s'est déroulée sur Mindor, puis il aime pas le script du tout. Puis Luke mentionne aussi à propos du rôle de Daiona, qui est comme une rousse qui est dans l'aventure, puis il dit non, moi j'aime pas ça les rousses. Puis là, c'est un clin d'œil qu'on sait qu'il va se marier avec Mara Jade, qui est rousse. Donc c'est un petit clin d'œil à ça. Donc c'est un petit gag. Puis une autre chose que j'ai remarqué, t'as Obi Clivian, qui est un des Rogue Squadron, qui mentionne qu'il était en train de rêver à l'actrice Wissa Starflare, ok? Puis qu'est-ce que j'ai vu selon les rumeurs sur les forums, c'est que cette actrice-là, ça serait elle qui serait la vedette du roman qui parlerait d'une holostar. Roman qui est de Michael Reeve puis Maya Catherine Bonoff, le roman que je pense
c'est pas titre.
C'est à la fin 2011, je me souviens pas trop, c'est assez loin encore, mais ça serait peut-être sur cette vedette là, donc ça serait un lien intéressant à mettre. Enfin, donc ça conclut un peu, c'est un roman qui est excellent, t'as pas besoin vraiment de connaître l'univers étendu pour l'apprécier. Parce que tu vois des bonnes scènes de bataille, autant dans l'espace, dans l'atmosphère et au sol. T'as un côté horreur un peu, je dirais, parce que vraiment, avec Death Trooper, j'espère que Death Trooper va être autant horreur qu'a été Shadow of Mindor. Moi, il y a des extraits, c'était vraiment horreur comme film, comme roman, là. C'était tellement sombre par endroit, puis c'était comme hors du commun que j'ai vraiment aimé. Donc,
enfin, je pense que j'espère que vu la couverture de Death Trooper, je pense que ce sera encore plus horreur.
Ouais.
J'aimerais bien savoir un peu ce qu'a fait l'auteur avant pour peut-être que se donner une petite idée peut-être.
Mm-hmm. Ouais, on voit le Stormtrooper avec un crochet dans l'œil.
Oui.
Et ouais. Donc le casque suspendu par un crochet. Ça fait très pas Freddy là, mais.
Saw.
Ouais, Saw. Saw 1, 2, 3, 4, 5. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais bon, vraiment, ce roman-là, il allait vraiment chercher un contexte de possession de l'esprit, de créatures étranges qui étaient de la roche, comme des âmes dans la roche. En tout cas, c'était très étrange comme... Tu sais, moi, je m'imaginais quand les gens étaient pris dans la roche qui se liquifiait, et puis tu tombais comme dans une mare d'eau, puis tu te faisais ensevelir dans la roche. C'était spécial, là.
Ouais.
Enfin, ce roman-là, je donnerais 4.5 sur 5, assurément. C'est pas le meilleur, selon moi, mais je veux dire, Matthew Stover a tout le temps... Il en écrit pas souvent des romans Star Wars, mais quand il en écrit, c'est tout le temps des... Il fait des romans différents. Je pense que c'est pour ça que le monde l'apprécie. Ils sont pas nécessairement meilleurs, mais il amène quelque chose qui est tout le temps nouveau dans Star Wars. Comme avec Traitor, t'avais tout le truc de comme Louis disait, de sadomaso. Vraiment de souffrance des Yuuzhan Vong. T'as un autre concept ici dans... Shatterpoint, c'était très violent aussi, c'était très graphique. Puis il avait amené le concept justement du Shatterpoint. Donc c'est vraiment, il amène toujours quelque chose de nouveau. Puis c'est ça que les fans aiment, je crois. De là à dire que c'est lui qui a les meilleurs romans Star Wars toujours et toujours. À chaque fois qu'il sort un nouveau roman, c'est son roman le meilleur. Je suis pas prête à le dire. Il y a beaucoup de fans que j'ai entendu qui disent « Ah, c'est le meilleur roman de tous les temps. » Shadow of Mordor, je suis pas nécessairement d'accord, mais c'est hors de l'ordinaire. C'est pour ça qu'il est intéressant.
Enfin, moi, j'ai bien aimé, mais comme je le disais déjà au début, je l'ai aimé, mais c'est vraiment la complicité de l'écriture qui m'a fait un peu perdre l'enthousiasme que j'avais au début.
Mm-hmm. Peut-être si...
Sinon, vas-y. J'ai des bons souvenirs, j'ai des bons souvenirs d'un peu d'humour, justement, comme tu parlais un peu de, j'ai trouvé qu'il y avait du bon humour avec les Rogues au début, j'avais trouvé qu'il y avait un bon humour avec Lando, je me souviens de bons passages de bataille et tout ça, mais c'est vrai que j'ai vraiment peiné quelquefois avec le style et c'est dommage parce que je sais que j'adore Stover et j'avais beaucoup plus de facilité même à lire presque Traitor qui est un des premiers livres que j'ai lu en anglais et évidemment j'avais eu beaucoup plus de facilité avec la novélisation de Revanche des Sith.
Il y avait de très bonnes scènes entre Lando et ses trois PO qui étaient très humoristiques. Ouais. Quand Lando essayait de comprendre, ses trois PO essayaient de lui mentionner qu'il y avait quelque chose qui devait lui communiquer, puis là Lando est « Ta gueule, c'est pas le moment! » Ouais.
Ça rappelle un peu ce que fait un peu Han Solo dans l'Empire contre-attaque quand C-3PO veut absolument dire à Han que l'hyperespace est mort, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, c'est un bon roman qui vaut la peine d'acheter. C'est certain qu'il est en grand format présentement, mais peut-être que Fleuve Noir va se décider un jour à le traduire, puis ça va être plus facile à comprendre par la suite.
Ouais.
Avec le retard, peut-être dans 5 ans.
Ouais.
On sait jamais. Ouais. Donc Louis, on t'a pas trop endormi là?
Pardon?
Faut croire que si.
Ah, je me suis pas ennuyé une seconde. Ah, c'était pas trop mon rayon ça donc.
Non, et disons que le livre est très complexe puis le fait que ça s'entrecroise toutes les lignes directrices de l'histoire, les quatre lignes directrices de l'histoire se croisent à tout bout de champ. T'es jamais certain où est-ce que tu es rendu dans l'histoire. Des fois, c'est vraiment mélangeant. Très mélangeant. Bon, ben, c'est fini pour la chronique littérature. Ouh, on a battu.
Maintenant, on va passer au sujet principal qui va durer encore 2 heures.
Non, il n'y a pas vraiment de sujet principal.
Ah, ben ça tombe bien.
Moi, étant donné que Fanboys est sorti aux États-Unis, mais seulement dans 8 villes, malheureusement, merci à la Weinstein Company qui a décidé de pas distribuer internationalement, même pas au Canada, même pas dans toutes les villes américaines. Donc, on va espérer qu'il y a assez de monde qui vont le voir aux États-Unis pour qu'on puisse le voir un jour, ce film-là.
Ah, donc, ça veut dire que maintenant, c'est sûr, on ne le verra jamais, par exemple, en France. Quoi.
Sauf si un grand succès aux États-Unis. Si un grand succès aux États-Unis, il y a des chances. Ouais. Sinon, ça va être le DVD.
Enfin, c'est fou, ça. Il y avait un tel enthousiasme derrière ce film.
Je sais. Mais moi, j'étais super déçu. Je voulais en parler justement aujourd'hui. Ben, j'aurais été le voir au cinéma, chez moi. Mais parce qu'habituellement, au Canada, ça sort toujours en même temps que les États-Unis. Mais là, aucune chance. C'était seulement dans 8 villes aux États-Unis qui sortait le film.
Ça, donc, c'est fou, ça.
T'as Chicago, pas loin du Canada.
Ouais, ben New York aurait été le plus proche pour moi.
Ouais, carrément.
Allez, mais bon, faut quand même se déplacer et puis espérer avoir une
place.
Faut
vraiment vouloir le voir. Hein.
Ben, c'est ça. Donc, on va attendre d'avoir les commentaires, d'avoir le DVD. J'imagine que s'il n'y a pas beaucoup de succès au cinéma, le DVD va venir à Noël. Donc, ben, pour le temps des fêtes. Donc,
est-ce que vous croyez qu'on pourra réussir à le trouver en sous-titré français?
Le trouver sur Internet, probablement, en bootleg, mais le trouver avec sous-titres, ça peut prendre un certain temps. Là.
Ben je veux bien aider. Hein.
Ben, je veux bien que tu m'aides.
Enfin, moi, étant donné que je voulais parler de Fanboys et puis on pouvait pas vraiment parce que j'ai pas pu le voir, j'avais vu une actualité sur The Force Pointed que je trouvais intéressante, puis j'ai décidé de vous en parler, puis d'essayer d'animer une discussion par rapport à ça. Peut-être que vous l'avez lu. La question, c'est combien coûterait la construction d'une Dead Star en 2008? D'accord?
Ah oui.
Est-ce que tu l'avais lu? Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? Ok, bon, ben, on brise le punch un peu. Toi, Louis, comment tu penses que ça coûterait de nos jours?
Une Dead Star?
Ouais, une étoile noire, là.
Je sais pas, Putain, la vache. Un plan de relance aux États-Unis, c'est 300 milliards, alors, je sais pas, 700 milliards?
Non, c'est,
d'euros?
C'est, en fait, il y a quelqu'un qui s'est amusé à le calculer, de façon très générale, et puis c'est 15 septillions de dollars américains. Un septillion, c'est 1 suivi de 24 zéros. Donc, c'est immense. Donc, je vais lire un peu la traduction de l'article. Donc, un septillion, c'est-à-dire le chiffre de 1 suivi de 24 zéros, c'est un très, très gros chiffre, spécialement en ce qui concerne de l'argent. C'est pour et pourquoi est-ce que c'est une aubaine? Parce que oui, c'est une aubaine. C'est parce que je traduis qu'est-ce que qu'est-ce que la personne raconte. Parce que les coûts qui suivront plus bas ignorent tous les nombreux coûts qui seraient normalement considérés pour la construction d'une Death Star d'envergure. Donc, l'autre jour, alors qu'il regardait la télé, il est tombé sur l'émission sur le film Star Wars Le Retour du Jedi, la scène où on voyait une multitude de petits vaisseaux volant autour de la station spatiale de la Death Star. Puis grâce à la magie d'ILM et de l'imagination de George Lucas, nous pouvons observer l'échelle de cette construction phénoménale. Nous pouvons voir les gratte-ciels dominants au-dessus de la surface de la station quasi-lunaire, des vallées qui rendraient honteuse celle du Grand Canyon et une ligne d'horizon pratiquement plane. Dans le fond, c'est immense, la Death Star. Donc, en regardant ceci, je me suis posé la question, combien coûterait la construction de cette chose? Impossible à imaginer. En réalité, oui, il est possible de le calculer, même si c'est une complète perte de temps. Donc, essayons de trouver la réponse. En voyant le montant mentionné ici haut, donc 15 septillions, nous pouvons comprendre pourquoi l'empereur était frustré quand les rebelles ont détruit sa monstruosité et pourquoi il lui manquait clairement du budget pour réaliser la seconde Death Star. Ça me fait toujours penser à... justement au petit clip de Robot Chicken quand Palpatine est dans son bureau puis Darth Vader l'appelle pour lui dire que la Death Star a explosé.
Go for Papa Palpatine.
You have a collect call from
Darth Vader.
I gotta take this. Hold on. Vader, how's my favorite Sith? Whoa, 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 whoa. Just slow down. Huh? Huh? What do you mean they blew up the Death Star? Who's they? What the hell is an aluminum falcon? Okay, so who's left? Are you me? Well, where are you? Wait a sec, you've been flying around for 2 weeks trying to get a signal? Oh, you must smell like feet wrapped in leathery burnt bacon. Oh, I'm sorry, I thought my Dark Lord of the Sith could protect a small thermal exhaust port that's only 2 meters wide. That thing wasn't even fully paid off yet! Do you have any idea what this is gonna do to my credit? hang on, I got another call.
Il y a de nombreuses variables à considérer pour obtenir un coût précis d'un projet de cette envergure. Essayons de calculer selon des variables qui ne sont pas issues de la science-fiction. La question qui se pose est la suivante. Quel serait le coût du matériel et de la mise en œuvre d'une Death Star en dollars américains? Ça, c'est la question qu'on se pose au début. Dans le calcul qui suit, j'ai ignoré les coûts insignifiants comme le frais de transport terrestre, les frais de construction spatiale, le prix de divers matériaux, le temps de construction, la variation de l'économie, l'effet gravitationnel, etc., etc. Si vous désirez lancer le calcul de différents aspects que j'ai mis de côté volontairement, allez-y. Moi, j'ai fait ça seulement pour le plaisir et non la précision. Donc, première chose sur quoi se baser. Supposons que la Death Star a un ratio masse-volume de 1 sur 10. Donc, c'est-à-dire que 1 dixième du volume total de la Death Star est autre chose que de l'espace vide ou de l'air. Donc, 1 dixième, c'est des matériaux solides, comme du métal, par exemple. Supposons aussi que 6 dixièmes du volume total est habitable et pressurisé. Donc, 6 dixièmes de tout l'espace disponible est pressurisé. Donc, il y a de l'air à l'intérieur. Ça va être les deux variables approximatives qu'on va se donner en partant, qui sont relativement réalistes. Maintenant, en utilisant ces chiffres hypothétiques, nous pouvons déterminer grâce à Internet les matériaux de construction de base, donc l'acier, et les prérequis de survie, donc l'air. Donc, l'information la plus importante qu'on a besoin de savoir, c'est le diamètre de la Death Star. Le site officiel l'établit à 160 km, le diamètre, donc pour la première Death Star, parce que je pense que la deuxième était plus grosse un peu. Donc, la première à 160 km de diamètre. Donc, si on se fie là-dessus, ceci nous donne un volume de 17,16 quadrillions de mètres cubes. Si on considère qu'un dixième du volume, nous aurons... pour l'acier, ça veut dire que nous aurons besoin de 1,7 quadrillion de mètres cubes d'acier, et ça pèse 134 quadrillions de tonnes. Donc, si on considère sur Internet, en février 2008, l'acier se vendait en moyenne 962$ par tonne. Donc, nos coûts en acier, seulement l'acier, serait de 12,95 quintillions. Maintenant, le coût du transport vers l'espace, selon les chiffres disponibles sur Internet, il coûte environ 95 millions de dollars pour envoyer une tonne de matériel dans l'espace, donc avec la navette spatiale. Ce qui veut dire que nous devrons faire un chèque de 12,79 septillions à la NASA, juste pour monter l'acier dans l'espace. C'est quand même assez fou, là. Ensuite... Qu'en est-il de l'air? Faut respirer quand même. Donc, l'air est composé d'azote à 80% et d'oxygène 20%. Et heureusement, on peut transporter l'air de façon compressée. Donc, combien d'air avons-nous de besoin? Il nous faut 8,23 quintillions de mètres cubes d'azote, 1,65 quintillions de mètres cubes d'oxygène. Si on considère que c'est 6 dixièmes du volume, comme on avait mentionné plus haut dans notre variable hypothétique, ça nous donne, de façon compressée, en volume, on aurait 21,06 trillions de mètres cubes d'azote et 1,96 trillions de mètres cubes d'oxygène. Évidemment, il faut le transporter vers l'espace, cet oxygène-là. Donc, notre azote aura un poids de 17,03 trillions de tonnes et notre oxygène, 2,24 trillions de tonnes. Donc, le prix de transport... pour l'air est de 2,82 septillions pour l'azote et 212,46 quintillions d'oxygène. Ce qui tout additionné donne un gros total de 15 septillions de dollars US. C'est assez malade. D'ailleurs, j'ai mis l'article sur siteclan.net si ça vous intéresse d'aller voir plus en détail. D'ailleurs, la personne a aussi fourni les calculs, sa feuille de calcul, donc vous pouvez voir un peu les chiffres. Puis si on veut faire des comparaisons de 15 septillions, ça représente quoi? Donc, à des fins comparatives, combien représente 15 septillions? La valeur générale de l'économie mondiale présentement est autour de 14 trillions de dollars US. En d'autres mots, la Death Star vaut 1,11 trillion de fois plus que tout l'argent disponible dans le monde, incluant le fait que la majorité de cet argent est virtuel et non physique. Donc, c'est comme, oubliez ça, là. Une autre comparaison. La guerre en Irak, combien coûte la guerre en Irak aux États-Unis? Une valeur qui a été mentionnée est 343 millions par jour que ça coûte aux États-Unis la guerre en Irak. Donc c'est énorme, mais vous savez quoi? La guerre en Irak doit durer au moins 124 trillions d'années ou 9730 fois l'âge de l'univers. Pour être équivalent.
En même temps, ils étaient bien partis pour, s'ils avaient encore du bouche, si ça avait été possible.
C'est ça. Mais imagine-toi, faudrait que 9 730 fois l'âge de l'univers pour être l'équivalent des coûts de construction de la Death Star. Juste une Death Star, là.
Bon, en même temps, si tu veux faire dans le spectaculaire, tu peux aussi calculer en vie de moustique, hein. Ouais, puis, alors là, je veux te dire. En puissance de 10. Hein.
C'est ça. Puis un autre chiffre qui est intéressant, c'est 10.3. Pourquoi 10.3? Ben, c'est le nombre de Death Star requises pour contenir 15 septillions de dollars US en papier. Donc, pour avoir tout cet argent-là accumulé, ça prendrait 10.3 Death Star remplis d'argent en papier pour en construire une seule. Juste pour dire. La chose positive, oui, il y a une note positive, c'est que le remplissage de la Death Star utiliserait seulement 0.005% de l'azote et 0.002% de l'oxygène disponible dans l'atmosphère terrestre. Donc, si l'armée décide de construire une Death Star, l'économie tombera en faillite par le simple coût d'imprimer de l'argent nécessaire pour ce projet, mais non, on n'aura pas plus de difficultés à respirer. Donc, et voilà pour l'extravagance de construire une Death Star si on croit que c'est possible un jour. Mais bon, la galaxie Star Wars, ça reste de la fiction, donc il y a probablement cet argent disponible si on considère tous les systèmes et comment que l'Empire fait la future.
Peut-être qu'il a encore de l'argent.
Mm-hmm. Ben, ça me fait penser, je suis toujours encore à Robot Chicken, à Palpatine, justement, qui dit à Darth Vader, penses-tu vraiment que je vais être capable d'avoir un prêt maintenant ou quelque chose comme ça, là? C'est vraiment bon. Je vais essayer d'intégrer quelques extraits dans la version éditée de Star Wars en direct juste pour,
Sorry about that. What? Oh, just rebuild it? Oh, that's a real fucking original. And who's gonna give me a loan, jackhole? You? You got an ATM on that torso light bright? Now get your 7'2" asthmatic ass back here, or I'm gonna tell everyone what a whiny bitch you were about Padamame or Panda Bear or whatever the hell her name is. Oh, jeez, he's crying. hey, come on, don't do that. I'm just dealing with a lot of crap right now. Death Star blown up by a bunch of f***ing teenagers, you know? I didn't mean to snap. Just get back here. Okay, bye. I love you too.
Donc, c'était juste pour faire un petit comparatif. J'avais trouvé cet article-là assez intéressant, donc j'ai décidé de le traduire pour notre plaisir. Donc, vous pouvez voir cet article-là en français sur siteclan.net. Sinon, allez voir sur theforce.net parce que l'auteur original qui est Rick Gold, le lien de son site est assez compliqué, donc... Allez plus voir sur siteclan.net. Donc, sur ce, l'émission est pas mal terminée.
Un petit quiz.
Ah, on peut faire une question trivia, ouais, ça serait intéressant.
Allez, on va le faire. Hein.
Donc,
Vous pouvez écouter la petite musique, hein.
Ouais, tiré du livre Obsessed with Star Wars, qui est un livre questionnaire. On va voir qu'est-ce que la petite machine va nous décider comme question.
Et à chaque fois que tu dis une question, à la fin, tu dis la lettre suivante, je sais pas si c'est 1, 2, 3, 4, tu dis question 5, ou alors, réponse 5 ou réponse D, et tu dis Obi-Wan Kenobi.
D'accord? Donc, il nous a choisi la question 750. On va aller voir la question 750. Je vais traduire on the fly, comme on dit. Combien de canons possède le Slave One, qui est le vaisseau de Boba Fett? A.
4.
4. B. Oui, 3. C. 6. Et D. 2. Donc, vous dites...
4, 4, 4, 4, 4.
Non, c'est pas 4. C'est B. Hein? Donc... Ah ben non, j'avais pas pris la bonne question. Hey, je suis brillant.
Oh là là, le boulet! Je me dis, mais de quoi qu'est-ce qu'il dit là?
Non, c'est ça, j'avais pris la question 751 au lieu de 750. Donc, je vais aller à 2400... Bon, la question que 2419. C'est proche de la fin, ça. OK. 2419, pour essayer de pas me tromper. OK. Combien de, oh boy, SFS 204 Sublight Ion Engine a une navette lambda?
J'ai rien compris.
Donc, j'imagine combien de moteurs a une navette lambda classe?
Ah, donc, d'accord.
Donc, A, 4, B, 2, C, 6 ou D, 1.
B, 2. 2?
Ouais. Je pense aussi.
Eh oui! Bravo!
Oh là là, qu'est-ce qu'on est bon!
1232.
Une dernière pour le plaisir.
Ah ouais. 1232.
Attends, je vais prendre mon encyclopédia avec moi.
Le temps que tu cherches.
Ouais, bon, c'est la question, mais qui a dit bienvenue
chez Mundi? Les gars, s'ils sont tous sur la même longueur d'onde, on va faire de la merde.
Donc, qui a dit?
Qui a dit Mundi?
C'est à force de l'avoir fait à Star Wars Réunion aussi. Hein.
C'est ça. Qui a dit bienvenue Seigneur Vador? Nous vous attendions. Donc, welcome Lord Vader, we've been expecting you.
Jar Jar.
Donc, A, Watt Tambor, B, Shumai, C, Newt Gunray, ou D, Rune Akko.
C'est Newt Gunray. Je suis con. Ouais. Moi, j'étais persuadé que c'était un truc dans le Retour du Jedi.
Eh oui, c'est Newt Gunray. Yeah. Bravo, bravo. Donc, sur ça, c'est terminé pour le trivia ce mois-ci. Donc, on va recommencer les mois suivants, juste pour le plaisir. C'est tout le temps intéressant. Donc, la prochaine émission aura lieu en mi-mars. On n'a pas décidé du sujet encore. Peut-être la série NGO, comme on mentionnait hors d'onde. Peut-être autre chose, on verra. Donc, c'est toujours à la même heure, 13h, heure du Québec, ou 19h, heure d'Europe. Si vous avez des commentaires ou suggestions, laissez-nous un message sur notre boîte vocale Skype à l'usager SW en direct ou écrivez-nous à l'adresse studio@swendirect.com. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook de la version française de Star Wars en direct et suivre nos faits et gestes sur Twitter. Donc, aussi, ne manquez pas Star Wars en direct édition Clone Wars toutes les semaines. La prochaine édition sera consacrée à l'épisode de Hidden Enemy. Il devrait être enregistré en fait demain. Donc, il devrait être disponible en début de semaine. Merci de la part de Raphaël, Henri et Louis et moi-même d'avoir écouté Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.